Voici en direct le Libre Journal de Serge de Beketch. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h.
Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 juillet 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 6 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. La Résistance à la chaleur. Moi, on va arrêter l'émission tout de suite. Il fait vraiment trop chaud.
Résistons, mais en se mangeant.
Attaquons,
oui.
Comme la lune. Merci. Donc, ce soir, 5 juillet.
Exact.
Je parle sous contrôle du camarade Goffman. Marquis, vous en pensez?
Il est sous mon contrôle.
C'est bien. On a vu ça.
L'émission est sous contrôle.
C'est assez réussi, oui, effectivement. Alors, nous allons recevoir ce soir beaucoup de monde. C'est pour ça que cette émission commence.
Elle va être
chaude. Chaud bouillant, comme on dit. J'attends un appel de Jean-Pierre Rondeau, qui est président de l'Amicale des anciens du lycée La Mauricière d'Alger. Alors, sous ces dehors, Benoît, cette appellation d'Amicale des anciens du lycée La Mauricière d'Alger, est quelque chose de très important qui est en train de faire la démonstration du fait que notre pays est entré en dimitude. Ça y est, c'est fait. On ne fait plus la loi chez nous. La loi chez nous, elle est faite par des gens qui s'appellent Mekachira, Moussaoui, Aounit, etc.
Dans mon immeuble, il s'appelle Mouloud, celui qui fait la loi.
Mouloud. Oui. Et c'est un Beketch qui vous le dit, donc il est particulièrement bien placé pour faire des réflexions sur les noms exotiques. Ensuite, nous recevrons Bah, je vous donne le plan tel qu'il était prévu. Mais comme maintenant les gens ont pris la décision d'arriver quand ça les arrange, on verra bien.
Un mot de plus pour notre ami Rondeau. Je crois qu'à l'instant où nous parlons, il est à l'Arc de Triomphe.
Oui, mais c'est pour ça que je ne veux pas...
On peut inviter nos auditeurs du quartier, j'en connais personnellement plusieurs, à y aller.
Non, on peut pas l'inviter parce que la manifestation a été interdite. Et donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est aller regarder ce qui se passe, mais ne pas participer à la manifestation. C'est pour ça que j'ai dit que Mouloud, il a gagné.
Mais... Fon Mouloud.
Donc voilà, l'idée, c'est aller voir ce qui se passe le 11 novembre 40. Non,
c'est Griot,
5 juillet 2006.
J'espère qu'on n'a pas interdit les émeutes raciales à 21h sur les Champs-Élysées quand même.
Bah non, alors c'est l'argument d'ailleurs qui a été utilisé par la maison Poulaga, qui a dit on peut pas faire un dépôt de gerbe à l'Arc de Triomphe à 18h parce que à 21h
ça va gerber,
à 24h,
ça va gerber de tous les côtés.
Voilà.
C'est ça. Pour une fois, on va faire un bon pronostic, Serge.
Ouais.
Si l'équipe de France gagne. L'équipe de France, les bleus, les noirs, enfin vous voyez de qui je veux parler, les blacks,
les hexagonaux.
Voilà. S'ils gagnent, émeute raciale.
Oui.
Mais s'ils perdent, émeute raciale.
C'est amusant tout à l'heure de voir à la terrasse d'un café pas loin d'ici des messieurs de l'extrême sud de la Bretagne en train de se maquiller pour le match. En bleu, blanc, rouge, ça fait un peu tarlouse quand même pour des mecs qui en ont des...
Non. Vous savez que c'est interdit, ça aussi.
Non, je sais pas, c'est bon.
Non, mais vraiment, ils cherchent la bagarre.
Oui,
on n'a pas le droit de dire que c'est des... On n'a pas le droit de dire qu'ils sont...
Plus, il paraît que c'est incompatible. Bon, ça...
Ça, c'est pas
tout le monde.
Enfin, il faut demander André Gide, mais il n'est pas disponible pour l'instant. Donc après, on va recevoir M. Paul Falavigna. Vous savez qu'est-ce qu'il avait fait, André Gide?
Non, mais vous allez me le dire.
Enfin, je savais ce qu'il faisait. Non, racontez pas ça à Serge à l'antenne. C'est pas possible.
Oui, on peut raconter. Il avait fait la connaissance.
Ah oui, puis il avait dit...
Tu te souviendras de Paul Claudel.
Écoutez Radio Courtoisie.
Alors nous recevons ensuite Henri-Paul Falavigna, animateur du collectif français Solidarité Enfants Martyrs de Beslan. Vous savez que c'est c'est le deuxième anniversaire de la tragédie de Beslan. Tragédie de Beslan qui présente une caractéristique intéressante. Ce sont des Tchétchènes musulmans, bon, islamistes pardon, parce que les musulmans c'est une religion de paix et de tolérance. Faut pas oublier ça. Tandis que les islamistes, là, c'est très très mal. Et donc, ils ont séquestré les enfants, ils les ont massacrés, c'est absolument horrible. Et qui en a engueulé? Qui la presse française a-t-elle engueulé? C'est son excellence, le président Poutine.
C'est la faute à Poutine.
Et en France, c'est la faute à Goffman. Donc, nous recevons Henri-Paul Falavigna, s'il veut bien venir. Je sais pas, parce qu'il avait pris rendez-vous, mais, bon. Ensuite, nous recevons l'abbé Cellier.
Ah.
Qui lui viendra peut-être aussi. Enfin, de toute façon, on est couvert de ce côté-là, parce qu'on a déjà un prêtre religieux. Bonsoir, mon père.
Bonsoir, Serge.
Et vous avez une mine.
Oui, j'ai achappé à mort hier soir, donc
je suis en pleine forme.
Ah oui, mon pneu a éclaté à 130 km/h. J'ai roulé sur la jante et...
Sur qui vous avez roulé?
Sur la jante.
sur la jante. Je suis arrivé à Brabant.
Dit la policière.
C'est très spectaculaire. Mais en fait, bon, c'est vrai...
À quelle vitesse?
130. Donc je suis sur l'autoroute,
comme par hasard,
j'ai le droit
d'être
à 130.
Ça,
ben, j'étais pas à 132, j'étais à 130.
Oui, bah, bien sûr, tu parles. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme auto? Il faut vous acheter des pneus.
Elle a 204 000 km, c'est une diesel. Payé par des amis de Riomont et acheté par le frère Olivier à une vente aux enchères.
Ah, bah voilà.
Combien il s'est mis dans la poche, le frère Olivier, quand il a revendu les pneus neufs pour acheter des pneus rechappés? D'abord, il s'est dit comme ça, on va être débarrassé du patron.
Ben non, vous en avez rechappé.
J'en ai rechappé, oui. Merci.
Belle mentalité. On va se faire engueuler en des avoirs parce qu'il ne faut pas plaisanter avec les prêtres, on m'a dit.
On plaisante avec quoi alors?
Rien. On arrête maintenant.
Ah bon,
les prêtres,
plus, alors,
avec les prêtres de Riomont, vous pouvez
On va peut-être plaisanter tout à l'heure avec Laurent Glosi, je ne sais pas.
Ces rires continuels ne coïncident pas avec la situation, monsieur de Beckett.
Vous avez raison, mon cher camarade.
Je peux faire une émission silencieuse.
Donc nous recevrons Laurent Glosi qui vient d'écrire un bouquin très étonnant et passionnant, un petit bouquin mais vraiment dense, sur le mystère de la race des géants. Un livre raciste.
Les géants, ce sont les Vendéens, évidemment.
Non, les géants, c'est des gens très grands. Ah oui, on est des gens simples. Ensuite, j'espère que Alexandre Barbera-Ivanov viendra nous voir. Alexandre Barbera-Ivanov, c'est un peintre, un portraitiste, russe, en grande part, comme son nom l'indique. Il s'appelle Alexandre Sergeyevich Barbara Ivanov, et qui a peint des corsaires, il fait des portraits de corsaires magnifiques, tellement beaux que j'ai décidé de faire une double page en couleur dans le journal pour les publier. Ah ouais, c'est beau, vraiment, c'est beau. Et qui expose à Saint-Malo cet été. Et vous allez voir, c'est un personnage, parce que quand il parle de peinture, quand il parle de l'art pictural, il en parle bien.
C'est étonnant ce que vous dites, parce qu'il y a des rapprochements. Que ça, hier, après avoir été visiter le palais de Lézard Ier, Sa Majesté Lézard Ier, je suis allé déjeuner au conservatoire Rachmaninov et j'ai entendu parler de ce peintre. Hier.
Ah, tiens. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs émus du conservatoire Rachmaninov où on entrait tout droit et on sortait oblique.
Ah oui, bah
à l'époque, quand même, le carafe de vodka valait 15 francs. C'est-à-dire, c'était le prix, s'ils avaient vendu de la vodka dans les supermarchés, c'est ce qu'on aurait payé.
Ça reste toujours très peu cher. Hein, c'est très
ah bon.
Très bon.
Mais pendant un moment, il fallait être membre du conservatoire pour entrer.
Prenez une carte, bidon.
Non, mais moi, j'y suis allé parce que comme je suis rentré au Lézard Ier par combine,
Marquis, on sait comment vous faites pour entrer partout.
Je rentre tout droit.
Par les portes de derrière, par les...
En plus, je vais pas à la mairie de Paris tous les matins.
Donc après voilà, et on se voit Michel Delucia, qui est un historien du cinéma français, et qui va nous expliquer, alors là, ça va plaire ce sujet d'émission, parce que il va nous expliquer combien l'occupation a été profitable au cinéma français.
Mais tout le monde le reconnaît.
Oui, tout le monde sans exception, Serge. Je ne sais pas si on va faire un scandale vraiment.
Tout le monde sait que c'était le meilleur cinéma. Il y a des noms de gens qui ne le reconnaissent pas. Mais enfin, on fera comme s'il n'existait pas. Voilà, l'actualité est ce qu'elle est, vous le savez, est-ce que c'est utile?
Bah oui, ça fait un quart d'heure sans parler de foot.
Oui, bah tant mieux.
Pourquoi on parlerait de foot? Et on a gagné, ça y est, on a gagné.
Et surtout, Monsieur de Villepin et Monsieur Chirac sont d'accord pour annoncer ce matin textuellement, la France va gagner, l'équipe de France de football va gagner. Alors c'est curieux, mais moi j'ai plus tellement envie de faire de pronostics depuis quelque temps.
Non, parce que pour dire clairement les choses, on pensait qu'ils avaient acheté l'équipe du Togo, qui naturellement...
C'est ce qu'on dit au Togo, c'est
à vendre. Ben oui, bon, ben, c'est pas cher.
C'est ce que Togo, tout le monde dit au
même
Togo.
Même moi, je pourrais presque me l'offrir.
Bon, enfin bon, alors, ils vont gagner, ils vont perdre.
Et alors, ils ont gagné contre le Togo, c'est normal, ils les ont arrosés. Mais contre les Espagnols, c'est plus cher l'Espagnol que le Togolais, je pense.
C'est hors de nos moyens, c'est pas dans nos prix.
C'est portugais, ça.
Et le Brésil non plus, parce que là-bas, c'est une catastrophe nationale. Si on demande aux Brésiliens quel est votre sport préféré, ils répondent le volleyball. Et si on leur dit, ah bon, c'est pas le football, ils disent, ah, maintenant, on parle plus de sport, on parle de religion. Je vous demande pardon, monsieur l'abbé.
Mais, ce que je crois, c'est que ils les ont fanafoudés. Vous savez ce que ça veut dire, fanafoudés? Ça veut dire ensorcelés à la manière des nègres. Oui. Ils pratiquent ça, le fanafoudage.
Vous voulez dire que le fétichage, le vaudou français est plus fort que le brésilien?
Absolument, parce qu'il vient directement d'Afrique, tandis que le brésilien, il est un peu frelaté, abattardi. Ouais.
Métissé.
Oui. Et donc le français, mais c'est connu, vous savez que Chirac a procédé à ça. Il y a un bouquin, j'avais reçu l'auteur de ce livre, La sorcellerie au cœur de la République, vous rappelez, cette dame qui était venue nous expliquer comment Chirac ou Mitterrand, je ne sais plus lequel des deux, avait fait venir un sorcier africain pour fanafouder son adversaire en cachant des fétiches autour de l'Élysée.
Je veux absolument pas vous vendre ma visite chez les Arts Premiers, c'est pas ça. Mais hier, quand je l'ai visité, il y a ce qu'on appelle des boîtes, et la jeune femme qui faisait visiter ça, qui est pas la moitié d'une imbécile, m'expliquait que la façon dont c'était présenté, certains objets, il fallait pas rester trop longtemps là, parce que c'était encore très très chargé de pouvoir.
Alors, c'est drôlement étonnant.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Cette idée qu'il y a des objets...
Je complète chargés. La question, Serge, si vous êtes d'accord, parce que c'est drôlement intéressant ce que vous dites. C'est pas invraisemblable que Chirac annonce avec tant d'aplomb ce matin que l'équipe de France va gagner, parce que peut-être qu'il aurait fétiché ou fait féticher l'équipe du Portugal, dont les supporters,
Il y a longtemps qu'il nous fait féticher.
Dont les supporters, eux, se contentent d'aller prier à Notre-Dame de Fatima. Je voulais vous en informer.
Qui va gagner?
Alors, qui va gagner?
Les meilleurs.
C'est vrai que ceux qui sont religieux, qui aiment Notre-Dame de Fatima, ont quand même une longueur d'avance.
Mais peut-être que la Sainte Vierge n'est pas fan de foot.
On ne sait pas ce qui va se passer. Toute la France.
Mais vous croyez aux objets ensorcelés, à ces choses-là, franchement?
Ah oui, oui.
On verra
oui, certains objets, oui. Oui. Ouais. Si.
Mais je vais vous dire, je crois aussi, et j'ai la certitude que ça existe depuis dimanche dernier.
Il faut faire une généralité.
J'ai vu un type sur, on était avec ma femme sur dans une brocante, et il y a un type qui a acheté une statue nègre. Et j'ai dit, toi, à mon avis, cette statue, elle me plaît pas du tout, tu vas avoir des emmerdements. Et j'ai regardé le type, et il a disparu. Il a suivi un certain chemin, puis il est parti, après avoir fait un grand numéro de cirque, du genre type généreux qui offre à boire à tout le monde et tout, et puis on est sorti derrière lui, et il avait paumé un billet de 500 balles, tout simplement.
Donc, c'est pas la statue noire, c'est la malédiction de Beckett.
Non, c'est les ennuis qui commencent. Alors on lui a couru derrière, mais il était parti dans sa voiture à pétrole, on l'a pas pu le rattraper. De donner l'argent aux pauvres.
Il y a 3 ou 4 numéros de cela dans Rivarol. Ils ont parlé effectivement de ces pratiques de sacrifice, notamment avec l'ancien défenseur de la JOXR, Basile Boli, qui, paraît-il, hein, c'est Rivarol qui raconte ça, sacrifier des petits sauriens avant une rencontre de foot.
Des petits sauriens,
des lézards, des choses comme ça.
Donc c'est les arts premiers, on n'en sort pas.
Donc voilà. Vous voyez que le sport mène à beaucoup de choses et à des pratiques effectivement ethniques assez curieuses.
Il y a un abbé de Notre-Dame de Fatima ce matin qui, France Inter, demande est-ce que vous allez prier pour le Portugal, est-ce que la Vierge s'y intéresse. Et il a commencé par rire au nez des journalistes et puis il a fini par dire ce serait bien. C'est remarquable, je trouve, comme réponse. Ce serait bien que le ciel s'y intéresse. Et moi-même, je me pose la question parce qu'il y a 2 ans, championnat d'Europe, le Portugal était organisateur, était en finale contre la Grèce. Et je me trouvais à la sortie de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, pour empêcher les gens de s'abonner au Libre Journal comme d'habitude. Et il sort un jeune prêtre de Saint-Nicolas, dont je connais pas le nom, et naturellement. Crétin classique, je lui saute à la gorge en disant « Monsieur l'abbé, alors, ce soir, qui le ciel va-t-il désigner entre la Grèce orthodoxe et le Portugal catholique ?» Le Portugal, bien sûr. Et je pensais qu'il allait répondre à côté ou me dire « Oui, oui, le Portugal. » Et avec beaucoup d'esprit, avec un petit air finaud, il m'a répondu « Alors que derrière nous passaient des voitures constellées de drapeaux portugais qui criaient, etc., il m'a dit « Je suis pas complètement sûr que le Portugal ait la plus grande faveur au ciel. » Alors du coup, je suis allé voir le match dans un restaurant grec et 2 heures après, on cassait les assiettes par terre. Et depuis, je voue un respect superstitieux et très profond à cet abbé à qui je demande des tuyaux pour faire mon loto sportif.
Qui vient d'ailleurs d'entrer dans l'église orthodoxe comme pauvre, non? Bien, enfin voilà, donc on saura.
Les pays en ont parlé. Hein.
Mais enfin, il faudra quand même reconnaître, j'invite les auditeurs qui restent, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, à méditer là-dessus. La défaite contre le Togo, on l'a prêtée à la corruption. La défaite contre l'Espagne, on l'a prêtée au doping. La victoire sur le Togo, on a dit c'est parce qu'on les avait achetés. La victoire sur l'Espagne, on a dit que c'est parce qu'ils étaient dopés, nos champions. Là. Et donc ce soir, s'ils gagnent, c'est parce qu'ils ont gorger des poulets.
Ça, Rumira, on n'en trouve plus.
Hein? Oui, il y avait une boîte qui continue à vendre
Il y a la grippe aviaire, tout le monde s'en fout. Il y a une boutique qui est grande comme le studio, il y a un type qui vend des coqs et des poules à longueur de journée, vivants, pour qu'on puisse aller les égorger dans le square à côté la nuit. Là, en ce moment, il est en rupture de stock.
J'ai lu un papier ce matin dans un autre journal, je crois que c'est 20 minutes, enfin les seuls journaux bien faits, c'est-à-dire gratuits. Il paraît qu'il n'y a plus de piaf, vous savez, les moineaux parisiens, moins en moins. Donc c'est peut-être pour ça, en fait, où ils les bouffent, où ils les...
Il y a trop de fruits, donc il n'y a plus d'oiseaux volants.
Il reste que les gros pigeons.
Comment s'appellent les gros pigeons? Voilà, alors, bien écoutez, on va donc agir dans le désordre, puisque de toute façon, on y est condamné par l'absence de nos invités.
Et puis par notre penchant naturel, cette poésie qui nous caractérise.
On va peut-être commencer. Alors mon père, on va commencer par vous, là. D'abord la robe.
Tous les chemins mènent à la robe.
Riomont, dites-nous un peu comment c'est les vacances là, ça y est, ils sont partis, vous en êtes débarrassés ou...
Non, parce que pendant les vacances, on travaille, puisqu'on fait les camps. Donc tous les camps vont démarrer, donc avec 550 enfants, Alors, le village breton avec les guides, les louvettes, avec 6 unités, puis scouts, paillis, du côté de Vitry-le-François. Mais on est illuminé par l'ordination du frère Dominique, qu'on va appeler le père Dominique. Et Serge, je vous ai dit que normalement, vous devez être enfant de cœur pour une des premières messes du frère Dominique, puisque en fait, c'est vous qui avez parlé de Riomont et la maman de ce garçon, m'entendant et vous entendant, lui a dit tu devrais faire un tour au village d'enfants de Riomont. Et c'est comme ça qu'il a connu le Riomont, qu'il est arrivé jusqu'au bout et qui vient d'être ordonné dans la Bastiale de Foncombeau, devant une foule immense. Oui, c'était bien. Merveilleusement beau. Bien sûr, une très belle liturgie. Et on avait énormément d'enfants pour assister à l'ordination. Alors, quand il est sorti de la Bastiale, la première bénédiction, c'était pour sa maman, qui donc vous a entendu. J'ai pensé à vous. C'était merveilleusement beau. Pour le répéter, j'étais très ému. Et maintenant, il part en camp comme aumônier pour les Spahis, en faisant un camp volant. Donc ça, c'est merveilleux. C'est une belle histoire de Radio Courtoisie.
Ben oui, il y a eu quelques expériences de ce genre. C'est pas une radio totalement inutile, on peut dire. Mais,
non, c'est vraiment magnifique.
Ça risque pas d'arriver à Skyrock.
Non, sûrement pas.
Donc, Serge, si vous pouvez venir à la fête de la Sainte-Croix le 17 septembre pour lui servir la messe, je vous apprendrai. Il n'y a pas de problème.
La messe, je ne suis pas né.
Mais non, mais je sais pas au point de vue âge.
On devait être enfant de cœur, la même chose.
Vous savez, il n'y a pas de problème. Au contraire.
Bon, enfin, bon, je
c'est pour,
je
pas, pour rire, mais je suis sérieux.
Le problème, ça va être de trouver une.
J'y pensais, mais je ne vous ai pas le dire.
À ma taille, quoi.
Parce que vous devez faire venir beaucoup de monde déjà aussi pour Riomont, pour la fête.
Ça fait 4 ans que Serge qui m'emmènera dans sa belle auto à Riomont, que je n'ai jamais vu.
Bon, voilà. Donc, Riomont va bien. Les camps se préparent. On a eu cette ordination. Vraiment, on est très heureux. On va construire une nouvelle ébénisterie à la rentrée pour donc les garçons qui préparent le métier du bois, pour préparer au CAP. Vraiment, ça se passe très très bien.
Comment on peut présenter Riomont à un auditeur qui serait tout à fait nouveau, qui n'en aurait jamais entendu parler?
Et Riomont, c'est très difficile à définir. On dit aux gens, écoutez, venez voir. Venez, voyez, on dit la parole du Christ. C'est très difficile.
Mais moi, je trouve que l'expression village d'enfants, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Riomont, c'était village d'enfants de Riomont. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un village d'enfants?
Alors, vous avez les villages SOS, ouais, donc ça. De familles, de parents qui décident d'adopter des enfants, les villages SOS. Pourquoi un village? Parce que quand le père Revé a fondé Riomont, il ne voulait pas d'un centre médico-éducatif avec des gosses de centre, etc. Il voulait un village d'enfants avec des pavillons, avec une ferme. Il voulait un petit village de France avec son tas de fumier. C'est très touchant parce que quand vous rentrez dans Riomont, effectivement, vous entrez dans un petit royaume.
Même un village un peu fortifié. Il y a une poterne.
Oui, mais un journaliste a dit que les murs soutiennent la colline pour pas qu'elle tombe. Oui. Donc c'est un village ouvert en même temps.
Oui, c'est vrai. Il y a une poterne, il y a un petit chemin qui conduit, alors après on arrive dans un endroit
c'est
où il y a des oies. Oui, village d'Astérix.
Et là on construit notre basilique, vous savez que ça avance, et c'est extraordinaire parce que ça avance bien. J'espère que vous allez visiter le chantier, Serge.
C'est du côté de Béthune,
Non, les orphelins de Béthune, il y avait eu un article qui avait été fait un jour, c'est pas nous.
Le chantier, je
dis. Non, mais dire Riomont est proche.
Riomont, c'est pas du tout, c'est pas près de Béthune, non. C'est non, proche c'est... de Lens, l'équipe de football.
Ouais.
C'est pour fixer.
Mais le chantier de votre cathédrale de fou, parce que c'est un truc
c'est
de fou.
C'est superbe, c'est superbe.
Eh bien, moi, j'ai mangé dans le trou du chantier.
Oui,
on a fait un grand banquet, un peu comme le banquet d'Astérix. Ah voilà, notre ami Jean-Pierre Rondeau nous appelle, donc je vous demande de chausser vos casques, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs de mettre vos pieds, parce que je cherche, right, c'est ça. Donc, parce qu'il y a deux oreilles, une droite et une gauche. Jean-Pierre ?
Oui ?
Comment allez-vous ? Comment ça se passe, alors ?
Je suis furieux, Serge. Je suis à l'entrée du souterrain qui mène à l'Arc de Triomphe. Un barrage de CRS nous empêche de passer. Monsieur Mekachira a signé un arrêté qui interdit pour la première fois d'assister à la cérémonie de la flamme. Au prétexte donc que l'association Allo qui organisait une cérémonie en mémoire des 3000 victimes d'Oran est susceptible de créer des troubles à l'ordre public. Or, les seuls troubles qui ont été constatés, ce sont ceux de agités par l'humanité, par le MRAP et par et le MRAP essentiellement. Donc nous ne remettrons pas la gerbe, mais c'est la première fois, même sous les nazis, que ça arrive.
Oui, c'est vrai, puisque, comme on le disait tout à l'heure, le 11 novembre 40, les étudiants français avaient pu déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu que cet imbécile de Mouloud Aounit appelle un cénotaphe. Ça veut dire qu'il ne sait pas qu'un cénotaphe, c'est tout simplement un tombeau vide, alors que le tombeau du soldat inconnu est plein. Enfin, il est habité. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est l'association des anciens du lycée La Mauricière d'Alger?
L'association, au départ, c'est une association, c'est une amicale des anciens avec des gens qui ont fait un parcours de vie parfois honorable. Au départ est une amicale, mais qui s'est beaucoup investi dans la mémoire et dans la mémoire donc de l'enseignement en Algérie, mais aussi dans la mémoire de notre passé historique, et qui en tant que association représentative des Oranais comptait pouvoir honorer les milliers de morts massacrés avec la complicité d'une partie de l'armée française enfermée sur ordre du général Katz dans les casernes. Voilà.
Mon que père, le diable le garde bien.
Il a été sauvé d'ailleurs par un musulman. Mais nous avons des amis dont les parents ont disparu. Et je signale que c'est une triple peine, puisque on parle beaucoup de double peine, mais eux ont une triple peine. La première des peines, c'est d'avoir un être cher qui a été assassiné et dans des conditions dont ils ne savent pas lesquelles. Le deuxième, c'est de ne pas savoir comment, oui, je disais, et à quel instant, quels ont été leurs derniers instants. Et le troisième, c'est d'avoir perdu la terre natale qui conserve le corps de leur martyr. Voilà. Donc, ce que fait Allo, ancien du lycée La Mauricière d'Oran. Et si ça vous dérange pas, je voudrais bien donner mon email.
Bien sûr, donnez les coordonnées de l'association. Répétez-le, s'il vous plaît, parce qu'on a...
Rondo, R-O-N-D-E-A-U, c'est tout collé,
oui.
@wanadoo.fr.
Quelle est l'attitude des forces de ouvriers qui mènent l'ordre fermé les guillemets?
Elles nous empêchent gentiment de passer. Bon, il y a des milliers. Vous savez qu'il y a une...
Ça les gêne pas.
Vous savez, la culture historique n'est pas toujours le fort. Hein. Voilà.
Et donc c'est Mekachera.
Il faut savoir aussi que ce soir, les Champs-Élysées vont être couverts de drapeaux algériens après le match. Mais nous, on nous interdit, je rappelle quand même que la seule armée de libération française était composée de 50% de pieds noirs, de 27 classes d'âge, ce qui n'était jamais arrivé pendant la guerre de 14-18, et que 80 000 femmes étaient engagées dans l'armée de libération, mais aujourd'hui nous n'avons pas le droit de respecter nos propres morts. Voilà.
Il va falloir beaucoup de cordes pour pendre les responsables de ce genre de trucs.
Nous avons la haine, monsieur, ouais. de Beckett. Nous avons vraiment la haine.
Ouais, je comprends ça, elle est partagée.
Et quand nous nous faisons interdire par des gens qui s'appellent donc Madame Moussaoui, journaliste de l'Humanité, Alouit ou Anouit du MRAP, et que monsieur Mekachera vient nous interdire, nous l'avons quand même un peu mauvaise.
Ça fait un peu beaucoup, je trouve aussi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, à l'origine de ça, c'est naturellement un ordre qui est venu du grand imbécile, j'imagine, non, ça c'est pas...
C'est un ordre qui est venu de monsieur Mekachera,
au-dessus.
Et de monsieur Sarkozy, puisque préfet de police qui a séné...
Donc c'est le labo, c'est pas le grand imbécile, c'est le petit nain, c'est ça. Ça, il faudra quand même s'en souvenir.
Je pense que la communauté pied-noir n'oubliera pas au moment de voter.
Oh, écoutez, elle en a oublié d'autres, entre nous. Hein. Je veux dire, je veux pas être désagréable, mais je trouve que ils ont vraiment la mémoire courte. En dehors de ces célébrations que des gens comme vous ont le courage d'organiser au mépris du danger réel pour eux-mêmes, pour leurs intérêts, pour leur vie, leur carrière professionnelle et tout, je trouve que dans la communauté des dépatriés, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont la mémoire extrêmement courte.
Vous avez raison, mais il y a deux choses qu'il fallait pas toucher, je pense. C'est la mémoire des victimes Et la deuxième chose qu'il ne fallait pas toucher, qu'ils ont fait déjà, j'en ai parlé grâce à vous sur Radio Courtoisie, c'est de nous coller sur les papiers, de vouloir nous coller sur les papiers le DZA, le Tchézaïr, que voilà. Et ça, j'ai, vous savez, ce soir, il y avait pas mal de monde.
Bien, bah écoutez, on espère qu'il y aura autant de monde et même beaucoup plus de monde dans les urnes pour s'en souvenir dans quelques mois.
Je suis persuadé, d'ailleurs, si vous regardez les villes du midi, voilà, je n'ai plus rien à dire.
Merci Jean-Pierre, bon courage et bravo pour votre esprit de résistance.
Merci, à bientôt Serge.
Au revoir. Voilà, alors, ça, c'est une histoire quand même absolument extravagante. Jean-Pierre Rondeau, je résume, en tant que fondateur de l'association amicale des anciens du lycée La Mauricière d'Alger, d'Oran, pardon, non pas d'Alger, comme je le disais, organise un dépôt de gerbes en souvenir
des morts d'Oran.
Des morts d'Oran. Et il a toutes les autorisations. Là-dessus, les ordures de l'humanité, car ce sont des ordures, interviennent avec l'appui des gens du MRAP. C'est vraiment la lie de l'humanité, ces gens-là. Et menacent d'organiser, avec le secours de l'extrême-gauche terroriste, des manifestations sur les Champs-Élysées, en laissant entendre que les banlieues pourraient s'émouvoir de ça et précéder les exactions qui se produiront évidemment sur les 10 Champs-Élysées après ce match de taré qui va agiter la population française, enfin hexagonale, ce soir. Et du coup, la culotte sur les chevilles, Monsieur Mekachera fait savoir que la culotte sur les chevilles, Monsieur Sarkozy a ordonné, suivant les ordres de Monsieur Chirac, la culotte sur les chevilles, d'interdire cette manifestation qui est immédiatement interdite. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, on l'a vu lors du dernier match contre l'Espagne, de faire respecter l'ordre public sur les Champs-Élysées, puisqu'il y a eu des exactions, des tentatives de viol, des agressions,
des
voitures brûlées,
cassées.
Des vitrines cassées, etc. Par la racaille dont cet imbécile nous disait qu'il allait la liquider au Karcher, le nain, là. Alors ça, on est incapable de régler ce genre de problème. Mais alors, devant des Français de souche, qui ont été chassés de leur province, qui ont été ruinés, volés, égorgés, pendus, prostitués pour les femmes, enlevés, assassinés dans le fin fond du désert, alors les héritiers ou les proches et les parents de ces malheureux qui veulent simplement rendre hommage à leurs parents, alors là, on roule les mécaniques et on leur dit non, non, on envoie 3 ou 4 CRS qui ne connaissent évidemment rien à toute cette histoire, qui sont, qui sont entraînés à dresser des contraventions à 51 km/h au lieu de 50. Alors là, on est implacable avec ces gens-là. Implacable. C'est les gens, je vous rappelle, ces flics-là. Ils ont verbalisé récemment des types, parce que ces types avaient mis sur leur, des automobilistes qui avaient mis sur la vitre arrière de leur voiture, t'approches pas trop près, je suis pas pédé. Eh bien, ceux-là, on leur file des contraventions au nom de la loi anti-homophobie. Enfin, dans quel monde on vit? Mais jusqu'à quand on va supporter cette racaille?
Il faut rappeler aussi l'interdiction de la soupe aux cochons.
Et on les envoie pour interdire la soupe aux cochons, toujours sur ordre de ces gens qui ne sont pas chez eux, il faut le dire une fois pour toutes. On reçoit cette ordure, ce macro de Bouteflika, on le soigne aux frais des Français, il rentre chez lui et il nous traîne dans la merde. Mais enfin, mais qui on a au pouvoir? Et ce type qui est au pouvoir en France, ce Chirac, il ose faire un numéro pour dire que Pétain a trahi, a couvert de sa gloire la collaboration. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait d'autre? C'est un collabo pire que le pire des collabos. Et la question se pose de savoir si on va voter pour lui ou si on va voter pour Sarkozy. Mais on est un pays dingue, ma parole.
Et la question se pose de savoir, comme vous le disiez à l'instant, si nous sommes encore chez nous et qui fait la loi chez nous.
Et pendant ce temps-là, Mme Marine Le Pen convainc son père de donner le départ de la campagne à Valmy. Valmy, qui est une mascarade grotesque, où des francs-maçons ont payé un franc-maçon pour se coucher devant les armées de la nation, comme ils disent, toute la racaille révolutionnaire qui est allée se pavaner là-bas. C'est une fausse guerre, une fausse bataille, une fausse victoire. Et c'est là-dessus, une fausse victoire, un lieu de souvenirs maçonniques. Et c'est à cet endroit-là que Le Pen va lancer sa campagne électorale.
Et Serge,
mais dans quel monde on est ?
Serge, je suis passé à Valmy au moment du 15e centenaire de la France, car vous savez que j'ai eu la joie de célébrer la messe tridentine dans la cathédrale de Reims, et on est repassé par Valmy et on s'est arrêté au parking. Et là, on a eu des centaines et des centaines de personnes qui étaient là. Et ils sont venus vers moi, parce que j'étais en habit. Et ils m'ont dit, nous sommes francs-maçons, nous fêtons Valmy.
Ouais.
Et je me suis retrouvé devant un spectacle extraordinaire. J'y croyais pas. Et j'ai vu cette réalité en France, les francs-maçons officiellement fêtaient Valmy pendant que nous, on parlait du baptistère de Reims. Mais c'est ignoble, ignoble.
Ouais, il va falloir quand même un jour que le feu du ciel s'abatte sur tout ça, parce que franchement, ça devient assez difficile à supporter, hein. Moi, ça me rend physiquement malade.
Hein. Et toi, le ciel t'aidera. On va peut-être pas attendre le feu du ciel, Serge. On va peut-être se retrousser les manches avant d'être noyé.
Allons-y, alors, retroussons-nous les manches. Donc, on va quand même parler de choses plus agréables. Redites-nous un peu des belles choses sur le village de Riomont. Comment on va ? Est-ce que vous fabriquez des enfants qui vont avoir l'esprit de résistance, là-bas ?
Ben je crois. J'ai vu un ancien venir. Je m'occupais de lui il y a 35 ans ou 36 ans. Ben je donne pas son nom de famille. Il s'appelle Pascal et il est arrivé au village. Il va faire baptiser un de ses enfants chez nous en septembre. Il m'a rappelé toute l'éducation que je lui ai donnée. Moi, en 1970, j'étais époustouflé, quoi, parce que quand même, ce sont des garçons qui étaient difficiles, et puis on était très exigeants, il y avait quand même une discipline, j'allais dire presque de fer pour certains, parce qu'il faut voir les enfants qui arrivaient là, comment ils étaient perturbés, et puis, je crois que Riomont sert à quelque chose dans la détresse actuelle, au milieu de ce chaos, je pense qu'on sort une belle jeunesse. Et la dernière fois, je voyais mes chapitres scouts sur la route de Chartres. Ben, c'est vrai que ils ont fait vibrer tout le pèlerinage et que tous les contacts qu'on a pu avoir, toutes les réactions des gens, c'était quand même Riomont, c'est quelque chose. Alors, bien sûr, on est faible, il faut rester dans l'humilité, mais je pense qu'on est dans la belle voie de la résurrection de la France. Et c'est vrai que ces jeunes, on les conduit très haut. C'est vrai qu'on met la barre très haut, mais il y a une belle jeunesse. Mais ça sera dur parce qu'on n'est pas beaucoup.
Ce qui est terrifiant, c'est que ce combat, c'est un combat d'une inégalité inimaginable. Quand on voit, on a contre nous, non seulement toute la racaille habituelle, toute la pourriture, la télévision, les affiches porno, le
système
de cinéma, tout, mais l'éducation nationale. Et puis alors maintenant, les lois, les législateurs, enfin... Qu'est-ce que vous imaginez, ces sénateurs, ces gros bonshommes, gros vieillards, ventripotents, chauves, qui sont installés dans leur fauteuil à 110 000 balles par mois, et ils votent des lois qui sont des lois de crapules, dans lesquelles on n'a pas le droit de dire que de se sodomiser, c'est quand même un truc de tordu. Enfin, c'est dément, quoi. Je sais plus comment exprimer la rage, l'encolèrement qui est le mien devant cette trahison permanente,
Serge,
des élites.
Serge, je le comprends, parce que nous, comme prêtres, c'est quand même très difficile de donner le credo, de donner tous les sacrements dans un contexte comme celui-là, parce que tout contredit notre idéal, et c'est terrible, parce qu'on sait que ces gosses, qui s'ils sont pas dans des bonnes écoles, ils entendent le contraire, et c'est vraiment le combat entre la lumière et les ténèbres. On le voit, il y a des moments terribles où les enfants sont affrontés. Il y a des moments où les enfants risquent leur vie, même à certains moments. Ils risquent leur vie s'ils affirment leur foi par rapport à une classe, par exemple. Ils se retrouvent peut-être avec 30 ou 35 garçons contre eux. Pourquoi ? Parce que simplement, ils ne portent pas un tchador, ils portent une croix. Et de porter la croix aujourd'hui, c'est terrible.
En France.
Et pourtant, Dieu sait si on a des racines chrétiennes. Et la confrontation se fait de plus en plus violente. Nous, on le sait. passer, parce qu'on est au contact de, d'enfants qui sont dans des CES, dans des CET, dans des FPA, etc., dans des lycées professionnels. Il faut voir ce qui se passe dans les lycées professionnels. C'est terrible. Et donc, il faut prier beaucoup pour que ces enfants soient protégés. Moi, à chaque fois que je prêche, je demande qu'on fasse un rempart de prière pour protéger les enfants qui sont confrontés à ça. Parce qu'un adulte, s'il est confronté, c'est un adulte, mais un enfant de 14, 15 ans qui s'oppose à toute une classe, que ce soit sur l'avortement, que ce soit sur des sujets brûlants, ces enfants-là, ils risquent leur vie.
Voilà, c'est à la fois consternant, effrayant de savoir que la situation en est à ce point-là, mais en même temps, c'est assez réconfortant de savoir que il y a encore des gens qui ont suffisamment d'espérance pour se lancer dans un combat pour essayer de sauver quelques principes, quelques valeurs, et puis quelques jeunes gens qui...
Puis au mieux de tout ça, il y a des grâces spéciales, parce qu'il y a des gens quand même qui se posent des questions, qui viennent vous voir, un peu impressionnés par votre détermination. Et je crois que c'est un moment où on peut faire un apostolat superbe.
On peut pas s'empêcher de penser au prétendu...
Au camp des saints.
Et moi, je pense plutôt au centre éducatif fermé, ou dit fermé.
Ouais, ça c'est formidable.
Parce que le père Aguirre, je ne lui cachais pas qu'il avait affaire à des enfants difficiles, dit-il pudiquement. Et on a dans ces centres éducatifs fermés, dans des châteaux, de véritables châteaux, des jeunes délinquants multirécidivistes qui ont 3 ou 4 domestiques chacun,
ah oui, oui.
Qui, pour lesquels on dépense, alors que vous vivez de surplus alimentaire et de briques et de brocs et d'appels à la charité chrétienne sur Radio Courtoisie, eux, on claque 2 ou 3 000 euros de nos impôts par jour, et les résultats sont qu'ils foutent le feu au château, qu'ils cassent la gueule de leurs domestiques ou de leurs animateurs, et qu'ils s'évadent et qu'on les reprend 3 mois après avec quelques viols et quelques crimes derrière eux.
Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, le directeur de certains, d'au moins d'un de ces établissements, s'est tapé les pensionnaires, les a emmenés, les a fait habiller dans les boutiques les plus luxueuses de vêtements de jeunes de la capitale, les a emmenés aux États-Unis, les sort à l'opéra, les emmène dans les grands restaurants pour les habituer à une vie qu'ils ne connaîtront pas autrement. Moyennant quoi, d'ailleurs, il se fait faire quelques gâteries parce que ça mange pas de pain. Et tout ça, au vu et au su de tout le monde, il n'y a pas un seul responsable qui réagit, alors que tout le monde dit, mais vous voyez ce qui se passe dans cette boutique. Vous voyez bien que ce type est un malade qui viole les gosses qui sont à sa disposition et qui paye ses viols avec l'argent public.
Puisqu'on est dans la publicité comparative, Serge, si vous nous disiez un mot de l'école Sarkozy à Asnières, on a le droit.
Ah ben, il vaudra mieux qu'on en parle plus tard, parce que j'ai prévu de faire un petit articulé là-dessus.
Alors on dira seulement que Monsieur Sarkozy a ouvert une école spéciale pour les jeunes en difficulté, voilà. Et que ça s'est formidablement bien passé.
Ça s'est très très bien passé. Ça s'est passé exactement comme on pouvait l'espérer. Mais on approfondira un peu la question. Merci monsieur le directeur l'abbé. Du village de Riomont. Non, pas monsieur l'abbé, je sais que vous voulez pas qu'on vous appelle l'abbé. Alors.
Le révérend père Argouache.
Le révérend père Argouache. Vous n'avez pas d'élixir, vous
De jeunesse.
Non, l'élixir du révérend père gauchiste.
Non. Gaucher, c'est pas gauchiste. Vous êtes terrible avec moi aujourd'hui.
J'ai décidé d'être désagréable avec vous parce que je vous aime tellement que ça finirait par se savoir. Et vous voulez pas donner une adresse où on peut vous envoyer un peu de quoi?
Ah oui, alors les dons, il y a eu le Rio Monto, mais les dons ont beaucoup ralenti parce que les gens ont de moins en moins d'argent. Et donc on est ric-rac, mais bon, pour envoyer un chèque, c'est simplement écrire au village d'enfants de Riomont, RIAUMONT, BP 28, 62 801, Liévin, CEDEX. Voilà. Alors le père Jean-Paul, pour ceux et puis le père Argouarche ou le père Argoire, pour ceux qui comprennent.
Argouarche.
Voilà.
L'homme de la terre, c'est ça.
Non. Ça veut dire le généreux en breton, mais bon, je n'ai pas eu confirmation.
Non, content de vous voir, on en est sûr.
Bon,
voilà, à bientôt.
Retournez.
Oui. Je ne sais pas pourquoi demande au père Argouache, ou Argouache, avez-vous des nouvelles du chapitre de la fraternité Saint-Pédis qui devait élire un supérieur général?
Non, il n'est pas conscient d'y dire. Non, d'abord, ça n'a pas encore eu lieu.
Non, je peux dire simplement que quand les deux pèlerinages se sont rencontrés cette année encore, j'étais à la rencontre du chapitre des martyrs de septembre et j'ai rencontré Monseigneur Félé, au milieu des deux pèlerinages.
Ah bon?
Oui, et avec deux ou trois personnes
Il y avait les étendards, non?
Non, c'était une rencontre de...
Non, parce qu'il y a le groupe des deux, constitué par des membres des deux pèlerinages, ils ont un étendard spécial. Je dirais la devise, mais quand vous serez parti, mon père.
Mais pour montrer qu'il y a quand même une amitié, une fraternité entre ces deux pèlerinages qui restent et qui restera.
Il y a la grande ombre de Nourriade qui flotte au-dessus.
Voilà, c'est vrai. Voilà. Et parce que quand on part au combat, il faut avoir le ventre plein.
Oui, on a le ventre plein et le cœur au ventre. Ce qui fait beaucoup. Merci mon père, à bientôt.
Vous écoutez Radio Courtoisie et vous avez bien raison.
Monsieur Glossy, bonsoir.
Bonsoir Serge, bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Alors, mon programme est complètement bouleversé. Je viens de voir arriver l'abbé Cellier. Mon père, si vous voulez dire à l'abbé Cellier de venir occuper votre place, comme ça montrera qu'on est très éclectique dans le choix de nos curés. Mais vous n'êtes pas concerné. Vous avez écrit un bouquin qui est très passionnant, qui s'appelle Le mystère de la race des géants. Alors moi, dès qu'il y a mystère, je suis ravi. Dès qu'il y a race, alors je trouve ça formidable. Les géants, j'aime bien aussi, surtout quand c'est des grands géants blonds aux yeux bleus. Mais c'est sérieux, cette histoire. Il y a vraiment une race des géants?
Je suis parti d'un constat à partir de la lecture de la Bible. La Bible parle à 17 reprises effectivement des géants. Donc j'ai voulu savoir ce qu'il en était au point de vue scientifique, c'est-à-dire au point de vue de l'archéologie. Est-ce que l'archéologie révèle l'existence de ces géants dont parle la Bible? Ensuite, effectivement, à partir de la réponse qu'apporte l'archéologie, j'ai voulu savoir à quelle période on aurait pu dater l'existence de ces géants. D'autant plus que la Bible n'est pas la seule à parler des géants. Il y a aussi des légendes indiennes. Donc j'ai essayé de donner des datations précises par rapport à ça. J'ai essayé également d'expliquer d'un point de vue scientifique comment les géants auraient pu apparaître et effectivement aussi comment ils auraient pu disparaître. Donc en majeure partie, on trouve les géants avant le déluge et on en trouve également aussi après.
Alors, qu'est-ce que vous appelez des géants d'abord? Vous allez me dire, c'est la taille. Mais je veux dire, est-ce qu'on est un géant parce qu'on fait 2m10 ou est-ce qu'il faut faire 3m40, 5m, 18m23 ?
Non, je parle de gens qui faisaient plus de 3m, voire plus de 4m. Et à ce propos, il y a par exemple des pères de l'Église, comme le père Athanase Kircher, qui était un jésuite au XVIe siècle, qui s'est lancé dans une classification par ordre de grandeur des géants. Et il a trouvé effectivement que Goliath était le troisième géant. Puisque dans la Bible, 1 Samuel 17,4, on parle de la taille de Goliath. Bonsoir mon père.
C'est l'abbé Cellier qui fait son entrée. Bonsoir monsieur l'abbé.
Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir monsieur Beckett, monsieur Goffman, monsieur le marquis, Victoria. Cher monsieur.
Bonsoir. Monsieur l'abbé Cellier est prêtre-éditeur.
Très bien.
Je vais l'interroger après sur votre bouquin qu'il n'a pas lu, mais on va le provoquer un peu, vous allez voir.
Donc,
Samuel 1, 17,4.
Dans 1 Samuel 17,4, on parle de la taille de Goliath en disant qu'il fait 6 coudes et une palme.
6 coudes.
Donc ça équivaut à 2m75, voire plus, ça dépend de l'interprétation, du moins de la valeur que l'on donne à la coudée. Mmh. Donc il y a des gens très sérieux qui sont des gens d'église, qui ont effectivement parlé des géants, notamment des prêtres missionnaires qui sont partis en Amérique du Sud. Il y a aussi des historiographes, il y a par exemple aussi le docteur de Philippe II d'Espagne qui parle aussi des géants.
Donc, il n'y a pas que des religieux catholiques, il y a également dans la Torah, enfin dans le plus pas dans la Torah, mais
oui.
Dans les livres juifs, il est question plusieurs fois des géants.
Alors le Talmud parle effectivement du roi de Bazan qui est Og. Le roi Og est un géant qui a ceci de particulier. C'est très intéressant parce que j'ai essayé effectivement dans mon interprétation du gigantisme concernant les hommes, parce qu'il y a aussi un gigantisme pour les singes ou pour d'autres espèces animales, mais concernant les hommes, le Talmud parle effectivement du roi Og, roi de Bazan, qui a ceci de particulier, selon les interprétations rabbiniques, il aurait pu être sauvé du déluge parce que il aurait entendu Dieu parler à Noé, et donc il se serait préparé et il se serait accroché à l'arche. Noé aurait fait un trou dans l'arche pour lui donner à manger. Ou alors, il y a d'autres interprétations de notre rabbin qui dit qu'il est parti en Palestine. Donc il y a plusieurs interprétations selon les rabbins. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une étude la plus large possible pour la recentrer par la suite d'un point de vue catholique avec les saints docteurs de l'Église catholique. Donc voilà le travail que je me suis efforcé de faire.
Alors en plus, ce qu'il faut dire, c'est que dans votre livre, votre livre n'est pas seulement constitué d'un recueil de témoignages trouvés dans les livres religieux, mais il y a également des illustrations. Alors là, on voit des illustrations dessinées. Ça, c'est une chose, notamment la classification par Kescher qui est illustrée. Mais il y a des photographies. Alors là, on est obligé de reconnaître l'existence des gens parce qu'ils sont photographiés. Et il y a notamment une photo qui est absolument renversante. C'est ce géant, mais doit faire 6 mètres de haut au moins.
Non, enfin.
Si, le fossile.
Il fait bien 4 mètres de haut, oui.
Contre le wagon?
Oui, tout à fait. C'est en Irlande, au début du 19e siècle. Une personne, donc, cherchait des minéraux, et en creusant, il a trouvé ce fossile-là qui a été exposé à plusieurs endroits en Irlande.
Et qu'est-ce que c'est devenu, ces pièces-là? Parce que je lisais hier ou avant-hier un article où on expliquait que il y a beaucoup d'objets mystérieux qui ont été vus dans des musées. Bon, on parle toujours des piles de Bagdad, c'est démontré, puisque ça, c'était des piles qui servaient tout simplement. D'ailleurs, c'est très amusant, on a trouvé donc des piles dans les fouilles de Bagdad qui ont, je ne sais pas combien, 2500 ou 3000 ans.
Des piles de pont,
des piles électriques, oui. Et alors, les gars les ont examinées, ça marche, ils les ont reconstituées, c'est tout simplement une petite amphore de terre dans laquelle il y a un fil de cuivre, un fil d'argent, et ça trempe dans du jus de raisin, disent-ils. Et alors pourquoi ils fabriquaient ça? Ils s'est longuement interrogé, on a découvert que c'était voilà, comme quoi le diable porte pierre, c'était des types qui fabriquaient des faux bijoux en argent. Donc ils faisaient des bijoux en cuivre et puis ils les mettaient là-dedans pour faire un plaquage d'argent.
Ça s'appelle le bijou fourré. J'ai lu ça dans Drummond. Hein. Dans Drummond. Parce que vous savez que Jacques de Biaise, le fondateur de la Ligue antisémitique de France, était un bijoutier.
Vous avez des lectures absolument incroyables. J'espère que vous avez condamné cette lecture avec véhémence.
Bien entendu. Bon. Mais c'était sur la question du bijou fourré qui m'était intéressé uniquement sur la question du bijou fourré.
Alors donc ça a 2 ou 3 000 ans. Alors il y a des choses comme ça. En général, ces objets disparaissent à un moment. On les voit dans un musée, et puis, ils disparaissent du musée. On a l'impression qu'il y a une espèce de police qui passe derrière et qui supprime ces trucs-là. Donc, c'est pas la peine que ça traîne.
Alors. D'ailleurs, je parle effectivement de la. Comment dire, j'ai l'absence de ces pièces dans des musées, je dirais, conventionnels, officiels. Mais il y a aux États-Unis, par exemple au Texas, des musées privés qui sont ouverts au public, où on peut voir des squelettes de géants ou des ossements de géants. Il y a des médecins, des archéologues qui ont porté témoignage de ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire d'ossements de géants dans des pharmacies en Chine ou autre. Mais pour comprendre ce sujet-là, on ne peut pas effectivement parler des géants sans toucher au centre du monde, sans écorcher le darwinisme. Parce qu'en fait, quand on parle des géants, le gigantisme pour l'homme, c'est l'angle d'attaque, à mon sens, idéal contre le darwinisme. Donc on est en train de toucher à entre guillemets une vérité officielle. Donc à partir de là, les musées ne peuvent pas se permettre, lorsqu'on connaît le poids de ce qui est officiel, on ne peut pas exposer dans des musées ce qui contredirait le darwinisme. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, il y a des gens qui, entre guillemets, on peut le dire, ont radicalement pété les plombs en, plombs en voyant des traces de géants à côté des traces de dinosaures, ce qui remettait en question la datation de la Terre de 4 milliards d'années, et qui ont essayé, c'était à Glen Rose, au Texas, de détruire ces vestiges-là.
Mais pourtant, Laurent Glosi, on pourrait vous répondre que le mystère n'en est pas un, parce que dans le cas de Goliath, que vous avez vous-même cité en premier, 2,74 m, est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'acromégalie, du phénomène bien connu d'excès hormonaux ?
Sur la 5, ils ont fait effectivement une émission où ils ont essayé d'interpréter ce cas-là avec un dérèglement de la glande hypophyse. Mais on peut effectivement, ou on pourrait donner une interprétation telle s'il s'agissait d'un cas, voire de deux cas. Mais lorsqu'il s'agit de centaines de cas, voire de milliers de cas comme cela, on peut réellement parler d'une race et se poser là aussi encore réellement la question de savoir si ces gens-là ne sont pas nos ancêtres, et s'ils sont nos ancêtres, pourquoi on n'en parle pas? Tout simplement parce que on remet en question le darwinisme. C'est-à-dire qu'en fait...
La Terre est en basse.
Oui.
C'est l'évolution normale pour un homme paresseux, c'est-à-dire pour la quasi-totalité de l'humanité, d'être de moins en moins grand, parce que ça fait moins à se baisser pour ramasser les choses, non?
C'est pourtant le contraire qui se produit. Je vous donne encore un chiffre intéressant. Les Français ont pris
1,90 m, Goffman, que vous êtes un parangon.
Les Français ont gagné 10 cm en taille depuis 30 ans. Est-ce que c'est encore un mystère?
Non, je pense qu'on n'a pas à se baser sur ce genre d'études ou autres. Là, on se base dans le cadre effectivement de mon livre, dans le cadre du gigantisme, c'est-à-dire d'êtres particuliers qui mesuraient plus de 4 mètres. Lorsqu'on s'intéresse au créationnisme, on sait aussi qu'à l'époque du gigantisme, il y avait aussi des hommes de petite taille, voire des pygmées. Donc, ce que j'essaye de démontrer tout simplement, c'est que le darwinisme, c'est du bluff, c'est un mensonge. L'homme d'aujourd'hui est l'homme de la création, c'est-à-dire que l'homme qui existe aujourd'hui, c'est l'homme tel qu'il a été créé par Dieu, ni plus ni moins. Et les interprétations qui sont majoritairement données par les scientifiques sur la disparition des géants, tout simplement parce que après le déluge, il y aurait eu un changement des courants magnétiques qui aura entraîné une apesanteur des corps et donc une disparition de tout ce qui est gigantesque. Donc à partir de là, par ricochet, on peut toucher au gigantisme dans les animaux, comme les grands sauriens, les dinosaures, etc. Et c'est là où c'est intéressant, parce que quand on va dans la cordillère des Andes, par exemple à Sacsayhuaman au Pérou, on trouve des peintures, des dessins, qui sont estimés à l'époque post-diluvienne, c'est-à-dire 2200 ans avant Jésus-Christ. Que montrent ces peintures, ces dessins? Elles montrent des hommes, elles montrent des animaux et notamment des dinosaures. Et ça, c'est tout à fait surprenant, parce qu'on retrouve aussi des peintures de dinosaures aussi chez les aborigènes. C'est vraiment étonnant.
Surtout l'extraordinaire collection de petites statuettes de dinosaures, c'est à Komo, je ne sais plus exactement quel est le nom du bled, où on a cru que c'était au début, bien sûr, c'est comme Glosel, on a cru que c'était une fabrication, que c'était un farceur qui s'était amusé à faire des dinosaures, et jusqu'au jour où on a découvert un dinosaure, une statuette de dinosaure qui n'existait pas dans la nomenclature officielle, et puis 10 ou 20 ans plus tard, on a découvert les ossements du dinosaure en question, c'est-à-dire qu'en réalité, donc, il faudrait croire que le faussaire, il a fabriqué le dinosaure avant la nature, avant d'en soupçonner l'existence. Et c'est évident que ça a été fait par des hommes qui ont vu des dinosaures.
Voilà. Il y a par exemple...
Vous voulez dire quelque chose, monsieur?
Non, c'était juste une blague du dit dinosaure, c'est ça?
Du dit dinosaure. Merci d'être venu, c'est vraiment gentil. Vous avez fait combien d'études?
Bon, une dizaine d'années, faut au moins ça, pour ça, arriver à ce niveau de blague vaseuse.
Pour avoir le culot de la lancer, surtout.
Donc par exemple, ces dessins, on les retrouve aussi sur le site mégalithique mexicain d'Acambaro, où en 1945, il y a un archéologue allemand, Waldemar Julsruth, qui a mené des fouilles et qui a trouvé également des dessins avec des dinosaures, avec des hommes, etc. Donc ça remet en cause fondamentalement la périodicité sur l'ancienneté de la Terre.
En fait, ce qui vous ravit dans cette histoire, c'est que vous enquiquinez les darwiniens, quoi.
Mais disons que ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que on peut remettre en cause le darwinisme, on en vient à l'origine de l'homme. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est très important de savoir d'où l'on vient. Et ensuite, ça c'est très intéressant, lorsqu'on se rend compte des gens qui ont financé le darwinisme comme Rockefeller, ça ce n'est pas un mystère, on peut effectivement voyager dans le monde du doute, se poser des questions aussi sur l'histoire officielle, sur la médecine officielle, et on se rend compte que ceux qui financent tout ce qui est officiel en termes d'histoire, de médecine, bien souvent, ce sont les mêmes. Donc s'il y a un menteur ou un chef d'orchestre qui ment dans un sujet tel que l'évolutionnisme ou le darwinisme, pourquoi ne le ferait-il pas ailleurs ? C'est pour ça qu'en fait, pour parler franchement, j'appelle le créationnisme un troisième révisionnisme. En termes de doute, en termes de doute socratique. Hein, c'est-à-dire que
Je croyais que c'était le doute cartésien que vous nous preniez, j'ai eu très peur. Question subsidiaire sur le darwinisme, il a déjà 150 ans, quoi, vu de nez.
Il est mort depuis longtemps.
Est-ce que vous ne choisissez pas un adversaire un peu facile? Je le dis d'ailleurs sans ironie pour m'instruire et instruire nos auditeurs. Oui. Est-ce que la science contemporaine n'a pas un petit peu révisé et amélioré ce darwinisme que vous avez l'air de choisir comme un adversaire un peu trop facile?
Oui et non. Oui et non. Si je prends par exemple le cas du Nouvel Observateur, qui au mois de décembre a fait un dossier hors série, un dossier spécial sur la Bible contre Darwin, ce qui, normalement, le titre aurait été plus authentique si ça avait été l'inverse, Darwin contre la Bible. Enfin, passons. Donc, le Nouvel Observateur a fait un article sur le créationnisme. Il y a 80 pages où il y a effectivement là aussi dans la propagande Staffel le personnel qu'il faut, c'est-à-dire il y a le bon médecin, le bon psychiatre, et sur 80 pages, il démontre que les créationnistes sont des gens qui sont des fous furieux, des gens violents, mais il ne donne en aucun cas une seule page ou une seule colonne à un créationniste pour pouvoir prouver le fait qu'ils avancent, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont complètement débiles, etc.
C'est de la propagande, donc, c'est pas de l'information.
On voit que l'évolutionnisme existe encore, même si de l'origine des espèces, il y a effectivement fort longtemps que ça a été écrit par Darwin, ça existe encore dans les esprits. La preuve, c'est que tout le monde défend cette théorie-là. Mais comme c'est une théorie qui s'effrite, il y a un autre danger qui vient pour ramasser tout ça. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est que l'homme ne s'identifie pas comme créature de Dieu. C'est ça. Donc à partir du moment où on se rend compte que l'édifice darwinien s'effrite, eh bien, les 4 milliards d'années, on les a déplacés, je dirais on les a déportés sur des 4 milliards d'années-lumière pour justifier l'origine de l'espèce humaine. C'est-à-dire que au lieu de dire maintenant, parce que les gens rigolent quelquefois lorsqu'on leur dit que l'homme descend du singe, eh bien, pour en quelque sorte soutenir ça,
là dans une
on est en train de dire l'homme peut appartenir à ce qu'on appelle une panspermia, il peut provenir d'un autre monde, d'un monde extraterrestre. Donc ça aussi, je travaille là-dessus pour démontrer que l'homme, il n'y a pas d'autre vie hors de la Terre, c'est impossible. Mais ça, c'est un travail à venir que je suis en train de mettre sur pied.
Alors en attendant, vous venez de publier dans votre propre maison d'édition,
oui,
un livre intitulé « Le mystère de la race des géants » de Laurent Glosy, que vous allez présenter à la librairie France Livre.
Alors tout à fait, c'est-à-dire que samedi prochain, de 15h à 18h30, à la librairie de France Livre, c'est-à-dire 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, samedi prochain donc, je dédicace ce livre, et une semaine après, c'est-à-dire le 15 juillet, à la Licorne Bleue qui se trouve au 3 bis rue Jules de Vallès, l'après-midi également, je dédicacerai ce livre-là.
C'est à Paris 11e. Oui, je connais, j'y étais samedi, je remercie les auditeurs qui m'ont rendu visite. C'est métro Federbe Chaligny. Et la station Charonne est à nouveau ouverte au public. Le bouquin de Laurent Glosy coûte 16€ pour 160 pages, je trouve que c'est relativement honnête.
Il s'est bien vendu en plus à la fête de Radio Courtoisie. Et je dois signaler aussi une chose, c'est qu'il est en vente dans toutes les bonnes librairies nationalistes, comme la Librairie Nationale, la Librairie Saint-Étienne à Toulouse, la librairie du Paillon à Nice, la librairie d'Aubray à Nantes.
Bravo. Il faut aider les bonnes librairies qui souffrent.
Merci Laurent.
Et juste une petite chose, pour les gens qui ne peuvent pas effectivement se procurer ce livre dans ces librairies, ils peuvent se le procurer moyennant un chèque de 18 euros franco de port, libellé à l'ordre donc de Laurent Glosy, Glosy GLAUZY, BP25 91 151 et Tempe Cedex.
Boîte postale 25 91 151
et Tempe
Cedex.
Contre un chèque de 18 euros franco de port.
Bonjour à vos enfants, non ? Ils vous écoutent ?
Oui, je salue Antoine et Victoire, ainsi que mon épouse.
Merci. À bientôt, Laurent.
Merci, au revoir.
Monsieur l'abbé, vous allez nous parler de livres aussi. Alors, vous cumulez les prix.
Les prix, ouais, il y a des tas de choses à dire. Ouais. Je ne sais pas combien.
Si des prix exorbitants.
Voilà, des prix exorbitants, entre autres. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, je ne sais pas, je fais un petit tour d'horizon rapide.
Ah, vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous voulez chanter quelque chose. Ah ben,
on écoutera une minute trente.
On écoutera ça d'accord. Voilà, une minute trente de bonheur.
Sur Radio Courtoisie.
Voilà. Donc, quelques points rapides pour donner les dernières, je dirais, nouveautés des éditions Clovis. Mais avant ça, je rappelle que je suis toujours le desservant de l'église Sainte-Thérèse et que si on veut aider l'église Sainte-Thérèse à mettre en place ces nouveaux vitraux, les vitraux qui sont restaurés les uns après les autres. Il y a 10 jours, on a eu le banc de communion après un an et demi de travail, donc qui est arrivé. Donc, je rappelle simplement l'endroit où on peut envoyer un chèque si on veut soutenir. Donc, l'église Sainte-Thérèse, c'est à l'ordre de l'église Sainte-Thérèse, tout simplement. Donc, église Sainte-Thérèse, boîte postale 40-201, boîte postale 40-201, 60-202, Compiègne-Cedex. Église Sainte-Thérèse, boîte postale 40-201, 60-202, Compiègne-Cedex.
Alors, avant de parler des livres, on a eu tout à l'heure la question d'un auditeur sur l'élection du supérieur général de la FRAT. Il y a du nouveau, non ?
Il n'y a absolument aucun nouveau. Je vais expliquer très rapidement comment se déroule le chapitre général. Donc, les capitulants sont arrivés pour la plupart pour les ordinations, donc vendredi, pour le vendredi 29 juin. Ils sont restés puisqu'ils n'allaient pas repartir aux USA, etc. Donc, ils ont pu tranquillement bavarder entre eux et se connaître parce que beaucoup se connaissent peu, les uns vivant aux USA, les autres, etc. Et puis, depuis lundi et mardi, ils ont eu, un petit peu comme il y a eu pour le conclave, un pré-conclave, c'est-à-dire discussion libre, exposé libre de chacun sur ce qu'il pense, important, pas important, etc. Là aussi, à la fois pour se connaître et puis pour, je dirais, pour faire un petit échange d'idées. Et puis, depuis ce matin jusqu'à dimanche, les capitulants sont en retraite spirituelle pour se préparer aux actes importants qu'ils vont avoir à accomplir. Donc, c'est leur retraite spirituelle annuelle. Et donc, lundi prochain, il y aura l'exposé du supérieur général sortant, il y aura la vérification des mandats, il y aura un certain nombre de points, je dirais, d'ordre technique et juridique. Et mardi, il y aura donc l'élection du supérieur général. Et si ça se fait dans des délais raisonnables, il y aura le même jour, normalement, l'élection de ces deux assistants, puisqu'il y a 3 élections, en fait, qui sont du supérieur général et ces 2 assistants, qui, puisque beaucoup de décisions dans notre congrégation sont prises de façon collégiale, le supérieur doit avoir l'aval de ces 2 assistants élus.
Moi, le mécréant, j'ai la tête qui tourne, là. Est-ce que l'abbé Cellier est en train de nous expliquer que la fraternité Saint-Pilice, c'est la démocratie? Ou j'ai mal compris?
Non, la démocratie, pas du tout. Le Saint-Esprit.
C'est donc comme la Sainte Église de Dieu, donc où le pape est donc élu par les cardinaux et ensuite il est le chef. Ouais. Et bien là, il y a une élection tous les 12 ans du supérieur qui pendant 12 ans sera le chef, qui a 2 assistants.
On n'est pas trop de risque quand même 12 ans.
Voilà, qui a 2 assistants qui sont également élus et dont il doit prendre l'avis sur les grandes questions. Ils sont donc bien sûr c'est le supérieur qui prend la décision définitive, mais il doit s'informer et voir avec ses deux.
Ça se passe comme un conclave où on connaît les candidats.
Ça se passe comme un conclave.
Donc,
voilà, il n'y a pas de candidat officiel. C'est la règle dans les élections ecclésiastiques, hein, puisque ça, dans les monastères, dans les congrégations, il y a des élections.
J'ai pas trop fréquenté, vous m'excusez.
Régulières. Voilà. Et ensuite, sous la direction de ce nouveau supérieur. Alors, je précise que le supérieur doit être élu avec les 2/3 des voix. de façon à ce qu'il n'y ait pas une congrégation cassée en deux, si vous voulez, avec 51 contre 49, mais qu'il représente, je dirais, une certaine unanimité. En revanche, ces deux assistants peuvent être élus à 50 plus 1 parce qu'ils peuvent représenter, eux, un petit peu plus des tendances. Et puis ensuite, pendant 4 jours, eh bien, le reste du chapitre général, sous la direction du nouveau supérieur, se déroulera pour examiner un certain nombre de questions, pour à la fois pour les 12 ans qui viennent de s'écouler, et puis pour donner au supérieur quelques indications ou quelques réflexions pour son mandat. Voilà. Alors, comment ça va se passer. Donc on saura ça, a priori, vous pourrez normalement, il y aura un communiqué qui sera diffusé probablement mercredi, donc éventuellement vous pourrez le dire mercredi prochain à la prochaine émission. Vous pourrez être le premier à l'annoncer sur Radio Courtoisie, je pense.
Alors je reviens un peu en arrière, faute d'animateurs, de directeurs et d'intervenants sérieux, cette émission a des auditeurs extrêmement sérieux, une auditrice qui nous dit, j'apprécie beaucoup le caractère comique de vos émissions, je vous remercie.
Ce soir, on ne peut pas dire que...
Il y a comme un froid à un moment.
Pour l'impression que ce soit comique ce
même
soir.
Même un peu de colère au bout d'un quart d'heure, il m'a semblé.
Non. Il y a quelques années, vous présentiez Le Découvreur de l'Arche de Noé. Vous présentez aujourd'hui Le Découvreur de la Race des Géants. À quand Le Découvreur de l'Atlantide?
Ah ben voilà le moment comique. Ah ben voilà,
mais je pense que c'est toujours en livre de poche, hein, l'Atlantide.
Oui.
Je pense que c'est la meilleure vente de livre de poche. Le premier livre de poche est la meilleure vente, je crois.
Et puis un auditeur nous dit « Gilgamesh fut comme Goliath un géant de 6 coudées ». Alors, il explique, il s'agit d'une confusion avec les coudées astrales. En effet, la constellation de Gilgamesh mesure 6 coudées astrales. Alors, donc, si je comprends bien, Goliath et Gilgamesh, qui sont connus comme étant des géants, et ils n'étaient pas des géants, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont restés dans l'histoire.
Voilà. Ils étaient des nains, peut-être.
Ils étaient de mèche, Gilgamesh.
Ils étaient de mèche, oui.
Bon, et Pierral dans tout ça, alors.
Pierral, c'est, je vous expliquerai, mais ils n'étaient pas entièrement géants. Ils n'étaient pas entièrement nains non plus, mais
voilà. On a lu 3 messages, quand même. Les auditeurs doivent fumer parce qu'il y en a des dizaines sur la table.
Alors, continuons sur les géants. Vous savez très bien que les grandes tailles, plus de 2,20 m, sont des anomalies géantes.
Les sabiques, c'est Benchemoul. Ah ben non, c'est fermé, ça n'existe plus.
Et qu'elles sont très rares. 1 pour 10 000.
Bon. Mais attendez, 2,20 m, c'est quoi? C'est le tour de taille, moi, je suis...
Ça vient.
Tous ceux qui sont plus grands que moi sont des anormaux, retenez ça.
C'est ça, là.
Je vous signale, évolution, une théorie en crise, de Michael Dempton.
Oui.
Aux éditions... Champ Flammarion.
Oui, c'est un livre de poche, un petit livre de poche. C'est pas cher, c'est bien fait. C'est un scientifique, hein, c'est pas un philosophe. Ouais.
À propos des extraterrestres, dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, il y a la réponse à votre questionnement et à votre étude. Pouvez-vous en parler?
Ah, c'est
on peut parler,
on peut
parler, le faire.
Bien sûr, du premier chapitre d'Ézéchiel avec les roues d'Ézéchiel et tout. Et d'ailleurs, qui s'appelle, c'est amusant parce que ça s'appelle, en hébreu, ça s'appelle des ophanimes. Et ophanim et ovni, c'est exactement le même mot, je vous fais remarquer. C'est-à-dire que comment on appelle ça quand on utilise les premières lettres d'un mot pour
créer acronyme.
Un acronyme. L'acronyme d'objet volant non identifié donne un mot hébreu qui veut dire soucoupe volante. Ophanim, ovni. Curieux ça. Hein. Très intéressant le livre d'Ézéchiel. C'est
vous le recommandez à la bestiaire, Serge, si je comprends bien.
Ça m'est arrivé de le lire quand même.
Je pense qu'il a dû le lire
un certain nombre de fois. Oui, c'est ça. Par erreur ou pas, inadvertance, un certain nombre de fois.
Voilà.
Les illustrations du 19e siècle.
Sans compter le livre formidable, Les yeux d'Ézéchiel sont ouverts, de mon excellent camarade. Aidez-moi, ça y est. C'est pas Alzheimer, c'est l'autre.
Donc, les illustrations du 19e siècle montrent que les Patagons étaient des géants.
Ah.
Monsieur de Becketch, qui est Patagon, pourrait-il nous éclairer à ce sujet?
Oui, moi je suis un Patagon dégénéré.
Patagon aussi, je suis un géant.
Je ne sais pas, cher ami, nous ne sommes pas suffisamment intimes. D'autres choses?
La solution pour sauver la France, c'est prendre les armes. La question se pose. Et les vertes années d'un président dont vous avez parlé, où peut-on trouver ce livre?
Il a été réédité, mais je crois qu'il a été réédité affecté de certaines coupes.
Ah oui, et comment?
Et donc la version ancienne est plus intéressante que la nouvelle, mais la version ancienne, moi j'en ai plus, j'en ai un exemplaire.
Non, on va le vendre très cher.
Vous le mettez sur Internet.
Faire une édition pirate. Vous le mettez sur Internet.
Il y est, je crois. Je me demande s'il n'est pas sur Internet.
Je pense que oui, mon, l'indique, mon frère m'a dit qu'il était sur Internet.
Tapez Google, les vertes années d'un président.
Et d'un président gogol. Oh, pardon.
Il faut pardonner à Marine Le Pen. À 38 ans, elle est déjà d'une génération d'ignorants. Mais son père, lui, ne l'est pas.
Non, mais moi, je n'ai rien à pardonner. D'abord, je ne suis pas juge.
Non, vous avez fait un constat.
J'ai fait un constat, c'est tout. Moi, je suis abasourdi de voir que le Front National est passé de Jeanne d'Arc à Valmy en deux ans. Quand Martinez, le fêlé, pas le félon, a dit il faut abandonner la ligne Jeanne d'Arc pour la ligne Henri IV, j'ai pensé que ça prendrait quand même 3-4 ans. Quoi. Non, en un an, ça a été, les Gaules étaient pliés. Bon, moi je veux bien.
Jean-Marie et Marine Le Pen divergent encore sur la grave question du football.
Ouais. Enfin, moi j'en suis plus, c'est fini, maintenant ça va, les conneries, ça commence à bien faire. Quand on explique que...
ils sont gentils quand même.
Laissez-la parler.
La seule raison pour laquelle je voterai Le Pen, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Et parce que Villiers a publié un truc qui est absolument répugnant, ça je dois dire. Il a fait faire un tract avec une photo de Jean-Marie Le Pen qui a 40 ans, avec le patch sur l'œil.
Le prognatisme.
Qui est naturellement photographié. Comment on faisait des photos
en contre-plongée.
Comme la propagande stalinienne faisait des photos en contre-plongée, alors on voit le menton, et puis on voit bien le patch sur l'œil et l'air aimable que Jean-Marie Le Pen peut avoir dans certaines circonstances, hein, par exemple depuis quelques mois quand il me croise. Donc cette photographie est répétée 10 fois avec Le Pen c'est le passé, Le Pen c'est la haine, Le Pen c'est le racisme, Le Pen c'est tout ça. Alors je dis à monsieur Villiers, vous êtes un vilain personnage, vous êtes un très 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 vilain personnage, monsieur Villiers. Oui, mais j'étais un peu dupe pendant un moment. Non, pas dupe, j'étais douteux, voilà.
Vilain et vicomte, ça fait beaucoup.
Oui, mais voilà, donc comme ça, d'autres amis.
Pour ceux qui aiment ça, c'est sur son site mpf.yougoslavie ou FR peut-être.
FN peut-être. Oui. Comme il copie tout, c'est à vous.
Samedi matin, à l'issue de la cérémonie qui avait été organisée sur la tombe de De Gueldre, fusillé dans des conditions horribles, des provocateurs sont venus, conduits par celui qui avait organisé la campagne sur les tortures. Je ne sais pas qui c'est. Vous avez des nouvelles ?
Non.
Ils étaient plusieurs, je crois, quand même.
Oui, ils devaient être au moins 2 ou 3, mais facile. D'autres choses ?
Ça, c'est un message du Québec. Espérer l'inespérable, c'est perdre du temps. La France est trop pourrie de l'intérieur. C'est pour longtemps.
C'est mon camarade Chalon qui écrit ça ?
Voilà. Je suis heureux d'être à 6000 km de la poubelle actuelle, respirer de l'air frais au milieu de mes arbres. Faites autant, venez au Québec et reconstruisons ensemble notre France ici.
Il m'a envoyé un dossier, c'est un abonné du Libre Journal, c'est un auditeur fidèle de la radio, et il m'a envoyé un dossier d'émigration. À 60 berges, qu'est-ce que je vais faire au Québec ?
Il n'est bon
avec ma petite femme qui ne supportait pas les températures inférieures à 27 degrés.
Elle vous suivra.
C'est
la seule
qui est heureuse en ce moment.
Elle bouffera du sirop d'érable.
Elle vous suivra.
Et de l'orignol.
Elle vous suivra si vous l'ordonnez, car la Bible l'ordonne aussi.
Ouais. Vous rigolez à propos de, en disant elle est contente en ce moment, mais.
Ah oui, c'est la seule.
Hier, on regardait la météo, et le gars dit, les températures vont baisser, et demain il fera 29 degrés. Et Daniel me dit, ah, tu vois, ça baisse. 29 degrés. Je dis oui, 29 degrés, c'est quand même pas mal, non? Ah non, ça va être juste. Voilà. Donc, là, il y a du souci à se faire, quand même.
Astrakhan, climatisation.
Vous avez une auditrice?
On a une auditrice.
Innocente.
Oh, c'est mignon.
Il y a besoin que vous l'instruisiez. Je ne comprends pas la phrase, la bataille de Valmy était la victoire des francs-maçons. Alors que c'était la victoire de Dumouriez et Kellermann contre les Prussiens.
Mais c'était deux francs-maçons.
1780.
Mais non, c'est pas contre.
Que viennent faire les francs-maçons?
Il faudrait lire le Libre Journal.
Si vous lisiez le Libre Journal, Madame Boulcharrier.
Numéro 382.
Je fais un bref résumé. Danton ayant fait voler les bijoux de la couronne, il les a fait dessertir les pierres par deux ouvriers spécialisés qu'il a ensuite fait assassiner pour qu'ils ne puissent pas parler. Les pierres ont été mises dans des petits sacs en cuir qui ont servi à acheter Brunswick. C'est-à-dire que Kellermann et Dumouriez, francs-maçons, ont fait passer à leur frère Brunswick un petit sac de pierres précieuses qui lui a permis de solder ses dettes de jeu qui se montaient, sauf erreur de ma part, à 8000 livres, ce qui représentait une somme absolument gigantesque à l'époque. Moyennant quoi, Dumouriez a donné l'ordre à ses troupes de foutre le camp.
Non, pas Dumouriez, Brunswick.
Brunswick a donné l'ordre à ses troupes de rompre le combat. Et en plus, ces crétins de révolutionnaires, ils ont dépensé l'argent pour rien, puisque ces abrutis de coalisés, ils s'étaient gavés d'herbes qu'il ne faut pas manger, et ils avaient tous la courante. Donc ils sont partis en cavalant, mais en cavalant avec, comme Chirac, toute sa bande, avec le pantalon sur les chevilles, et en semant derrière eux tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, donc ils ont été vaincus par la colique et par la vérole maçonnique.
Serge résume un excellent papier qui est dans le Libre Journal numéro 382, que donc voilà cette auditrice va commander.
Voilà pourquoi votre franc-maçon est muet.
Voilà, vous savez tout maintenant.
Votre franc-maçon est muet.
Pouvez-vous commenter le prochain jugement des Khmers rouges?
C'est difficile de
ainsi que, les titres du journal Le Monde de l'époque.
Phnom Penh libéré.
Voilà.
Ce qu'on peut commenter, c'est qu'il a fallu 30 ans pour mettre procès sur pied, et que, avant que le procès commence, et en tout cas certainement avant qu'il soit terminé, ils seront tous crevés.
Ça a été plus vite à Nuremberg.
Comme ça, ils ne parleront pas, et ça a été naturellement plus vite à Nuremberg, et encore plus vite au TPI. Où finalement il s'était tellement enquiquiné de ne pas pouvoir coincer Milosevic, qui était autre chose qu'un imbécile, qu'ils ont fini par l'assassiner, par le faire crever lui aussi en l'empoisonnant. Donc méfiez-vous des tribunaux en général et des tribunaux internationaux en particulier.
Monsieur Beketch, lisez-vous le magazine Réfléchir et Agir?
Ça m'est arrivé.
Ni l'un ni l'autre.
Qui fait cette année le tour d'Europe des forces identitaires? Vive l'Europe! Ça, c'est un de vos auditeurs. Et un autre auditeur vous dit, c'est aujourd'hui 5 juillet, l'anniversaire de la prise d'Alger en 1830. Et ça se fête, ça. Qu'en pensez-vous?
Notre divin marquis ne sera plus entendu ce soir, car il est en train de sortir sur la pointe des pieds.
Il est vexé parce que...
J'ai un dîner football.
Heureusement, il est dans le Libre Journal numéro 382, où il fait un reportage à travers l'Auvergne en autocar avec le troisième âge, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Mais vous faites marrer à vous moquer du troisième âge. Vous avez quel âge?
Du troisième âge. Je ne m'en moque pas du tout.
Il a quel âge? Et moi, j'ai quel âge?
Seulement, je ne m'en moque pas, mais je m'en sert pour faire la publicité du journal, parce que c'est absolument top ce que nous raconte le marquis dans son autocar avec ses vieilles dames et ses vieux messieurs et leurs remarques innocentes.
D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir une loi prochainement pour interdire de dire du mal des vieillards, de se moquer des vieillards.
Mais il serait temps.
Et les nains, pourquoi? On a le droit de se moquer des nains?
Non.
Et les étoureaux?
Les quoi?
Les étoureaux.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est des gens qui couchent entre sexes différents, c'est dégoûtant, on ne devrait pas en parler.
Voilà, d'ailleurs on ne devrait même pas en parler.
Bon.
Alors revenons maintenant, ça n'a rien à voir.
J'avais des messages pour M. Labbé.
Déjà, c'est la gloire.
De nous présenter ces ouvrages.
Une dernière chose avant de présenter les ouvrages, là je tire un peu sur la ficelle. Donc simplement pour donner les résultats du bac des écoles de la fraternité, écoles de garçons. Donc il y avait 76 candidats présentés, 5 mentions très bien, 16 mentions bien et 26 mentions assez bien. Bon, c'était juste pour le résultat.
Donc, il y en a quand même 26 qui sont assez bien. Quoi.
Voilà, assez bien. Et puis il y en a même effrayant, il y en a même dépassables seulement.
Non.
C'est vraiment la décadence. Là. Où va-t-on?
J'espère que 100% de réussite quand même.
Voilà, donc on attend, puisque c'est ce soir qu'on aura les résultats définitifs. Il y en a 5 qui passaient l'oral de rattrapage. Mais bon, je pense qu'il y en aura peut-être un ou deux qui échoueront. Mais enfin bon, je pense que ça va faire au moins 74, 75 sur 76 qui auront le baccalauréat. Bon, qui ne vaut peut-être plus grand-chose aujourd'hui, par ailleurs.
Je me permets de préciser que le livre d'Ézéchiel, enfin, les yeux d'Ézéchiel, c'est de Raymond Abellio. Voilà.
Qui était
le précepteur du fils Mitterrand.
Voilà, mais dont parle notre ami dans la grande famille, là, le conseil de famille. Excellent livre. Comment il s'appelle? Si. Ça va me revenir, c'est en Algérie française. Bon, ça va me revenir. Conseil de famille de... Bon, peu importe. Alors, rappelons, vous commencez par ça. Rappelons le siège de l'Alcazar, qui a eu le prix des petits princes fondé sous à votre initiative, sous votre aura, sous votre bénédiction, enfin je ne sais pas.
Il s'agit d'une bande dessinée.
Voilà, c'est une bande dessinée, Le Siège de la Casa, hein, qui est d'origine espagnole, que nous avons adaptée en français, et en couleur bien sûr, 48 pages en couleur, et qui donc raconte de façon très précise, très et très objective, objectif pour bien sûr, oui. Donc les bons sont beaux et les méchants sont pas beaux.
Voilà, voilà, c'est simple.
C'est très précis et on connaît bien l'histoire de ce siège extraordinaire qui, je rappelle, s'est passé pendant le temps que nous sommes, puisque ça commence en juillet. Donc c'est en juillet 1936, il y a exactement 70 ans que s'est déroulé le siège de l'Alcazar. Donc il est juste temps de l'acheter pour le lire et l'offrir, bien sûr, pour le 70e anniversaire de ce siège qui a été victorieux.
Épisode célèbre de la guerre d'Espagne, je le dis pour les nouveaux auditeurs, voilà. Et surtout les milliers d'auditeurs de gauche.
Qui... Voilà, donc la guerre d'Espagne 1936-1939, et là c'est en 1936, le début de la guerre d'Espagne, et ça a été un grand moment de cette
il est très bien fait cet album. Il y a deux choses à lire en ce moment. C'est sur le siège de l'Alcazar, c'est ce livre des éditions
Clovis, par les frères Crespo.
Et puis aux éditions de la Reconquête, le bouquin de la réédition du livre de Massis et Brasillac.
Massis et Brasillac. Ouais. Et puis vous avez également édité par Olivier et Hélène Grimaldi les actes du colloque qu'ils avaient fait sur José Antonio. Donc la partie doctrinale, disons, du Movimento. Hein, ici, donc, c'est Olivier et Hélène Grimaldi qui nous ont poussé, n'est-ce pas, à cette édition, à cette adaptation française. Hein. Donc, ça s'appelle Siège de l'Alcazar, édition Clovis. Ça coûte 29 €. Alors. Le Fidélitaire, donc je pense qu'on parlera du Méfray juste après la pause, de toute façon on pourra l'écouter parce que sinon on sera coupé. Le dernier Fidélitaire, on en reparlera au départ quelques instants, mais donc un dossier qui est peut-être très d'actualité parce que les gens sont pas forcément sont toujours un peu moroses.
Fidélitaire, excusez-moi, est une revue. Hein, je le dis encore pour les auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur ou qui n'ont jamais entendu parler de votre revue.
Voilà, donc c'est la revue du District de France de la Fraternité qui présente à la fois des dossiers, à la fois l'actualité de la tradition, c'est-à-dire l'actualité de la fraternité et de ses des œuvres amies, et puis un petit peu de littérature, un petit peu de culture chrétienne. Et là, nous avons fait un dossier sur la joie chrétienne. Ce n'est pas inutile. Donc, avec un certain nombre de contributions, je le signale. Donc, une contribution de la part un saint triste est un triste sang pour expliquer l'importance et le caractère central de la joie dans la vie chrétienne. Corrigé par le rire, une évocation de Mgr Duc au Bourget, qui était un homme très drôle, et qui est par l'abbé Didier Bonnetaire. Réenchanter le monde, c'est une évocation de Chesterton par Philippe Maxence, qui est donc le rédacteur en chef, si mes souvenirs sont exacts, de L'Homme Nouveau. Le rire est un parapluie par Anne Le Pape, qui est une évocation des conférences contradictoires du chanoine Desgranges. La grande époque des conférences contradictoires. Chanoine Desgranges était un homme qui a fondé une œuvre de soutien aux épurés après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il avait été un résistant lui-même. De saints vraiment pas tristes, c'est donc sur Saint Philippe Néri, grand saint romain extrêmement comique, et puis Miguel Pro, le père Miguel Pro au Mexique, qui lui aussi est un grand saint dans une période de persécution anticatholique, puis sera fusillé devant les photographes, mais qui a toujours été très joyeux et même blagueur, enfin faisant des...
Dites-moi une chose, est-ce que vous parlez du fait que j'ai eu une conversation hier avec mon fils aîné là-dessus, le Christ ne rit jamais dans les
évangiles. Je l'avais sur le bout des lèvres. J'étais scandalisé de voir sortir le bouquin de Descoings qui s'appelle le Christ, le Dieu qui riait. Parce que d'un côté, effectivement, le Christ ne rit pas, je crois le rire satanique, et de l'autre, moi je constate, et c'est un des moteurs de ma sympathie pour la tradition catholique, que, à part peut-être le bouddhisme, c'est certainement la religion la plus gaie et dont les représentants ont le plus le sens de l'humour et de la joie.
Voilà, alors concernant, donc là, c'est l'ange sourire hein, de Reims qui est en couverture du Fidélitaire. Donc le Christ ne rit pas, non pas parce qu'il est contre le rire, mais le rire est une faculté typiquement humaine, qui est la découverte d'une conséquence imprévue d'un principe qu'on a posé. Je pense qu'il va se passer ça, et surprise, c'est un autre, et ça déclenche le rire. Or, notre Seigneur a cette faculté particulière. Il est pleinement homme, mais en même temps, évidemment, par sa science divine, il sait déjà les conséquences, donc il n'a pas cet effet de surprise. Donc, c'est pour ça qu'il ne rit pas. En revanche, il sourit. Tout ce qui est l'expression de la joie, il est dans la joie parfaite,
notre Seigneur. De la bienveillance.
Voilà, de la bienveillance, de l'amour, etc. Ça, effectivement, il exprime tous ses sentiments et tout ce qui est sourire et accueil. Et on voit combien il était aimé des gens, aimé des enfants, qui, eux, ne se trompent pas sur ce genre de choses. Mais le rire lui-même, techniquement, il ne l'a pas, mais non pas, parce qu'il le surpasse. Les anges, Dieu ne rit pas, mais parce que le
il
rire,
sourit, en tout cas.
Il sourit, bien sûr, il sourit. Tout ce qui est l'expression de la joie et de l'amitié.
À 30 secondes, je peux raconter une fois de plus cette histoire. J'étais à la sortie, à l'arrivée du pèlerinage de Chartres, et donc pour essayer de placer le Libre Journal, je criais guérison miraculeuse de vos ampoules par simple application du Libre Journal, et je me disais, je vais me faire écharper par la foule des fanatiques. Et au lieu de ça, il y a un vieux curé qui s'approche de moi, chauve, et qui me dit: est-ce que ça fait aussi repousser les cheveux?
Voilà, pause technique et on se retrouve pour la suite des événements.
Merci de passer la soirée avec nous. Tout à l'heure à 21h, les soirées musicales avec la discothèque pour connaisseurs et amateurs de Claudio. À 22h, les musiques de films, et puis à 23h, les grands pianistes. Ce soir, Nikita Magaloff. Mais tout de suite, voici la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Beketch. Très bonne soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 juillet 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 6 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Bien, monsieur l'abbé, vous reprenez la parole.
Voilà, donc on finit juste le fidélitaire de juillet, numéro 172, donc un dossier sur la joie, et puis il y a donc un article, deux articles sur les lectures d'été pour les petits-enfants et pour les adolescents, ça peut être utile pour nos auditeurs. Et puis une évocation de Saint-Pilice en Vénétie par François de Crécy, grand spécialiste de Venise, bien sûr. Et hélas, si je puis dire, une évocation par François Brignot de Georges Paul Wagner. Donc je dirais une belle évocation, mais en même temps une grande tristesse de voir disparaître un homme de cette qualité-là. Voilà, donc.
Alors, vous êtes éditeur de musique aussi, maintenant.
Voilà, producteur, attention, en musique, on est producteur, on n'est pas
vous
éditeur.
Vous n'êtes pas en fuite?
Voilà. Non, donc, producteur de musique, effectivement, nous avons réalisé un disque avec Jean-Pax Meffray. Je dirais que c'est son grand retour parce que c'est pratiquement depuis 20 ans, pratiquement ses premières chansons originales. Je crois que ça va être le début, il va en faire d'autres. Et donc, nous produisons ce disque qui s'appelle Guerre de Vendée.
Ça, c'est assez inattendu. Alors, lui, il dit, moi, je suis pied noir de naissance, vendéen de cœur et chouan de caractère. Donc, j'ai le droit de chanter la Vendée.
Voilà. Et c'est très beau. C'est très beau. On l'écoutera dans quelques instants, le début d'une des chansons. Donc, il y a d'abord une évocation historique de la Vendée. Très belle évocation historique. Récitée, dite, si vous voulez. Et ensuite, des chansons. Chansons sur la Vendée, chansons sur la chouannerie. Hein. Et donc, Il nous a demandé, c'est à travers Monsieur Jaclo, donc le responsable de la librairie, que s'est fait le contact avec Jean-Pax Meffray, et je pense qu'on s'est plu mutuellement, on a eu envie de travailler ensemble, et
il nous a confié... Comment voulez-vous ne pas aimer Monsieur Jaclo?
Voilà, oui.
La crème des hommes.
Voilà, et donc il nous a effectivement confié ce disque, hein, donc qui sera mis en vente en avant-première, donc le jeudi 13 juillet à partir de 15h, où Jean-Pax Meffray le dédicacera à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement, et à partir donc du 14 juillet. Donc le 14 juillet, je rappelle qu'il y a les journées catholiques et royales à la librairie France Livre, et à partir du 14 juillet, le disque sera disponible pour le monde entier et la galaxie, etc.
Et on le présentera dans cette émission plus en détail avec Jean-Pax le mercredi 12.
Voilà, le mercredi 12. Alors on va peut-être juste, pour donner l'ambiance, juste écouter donc le début de la chanson qui s'intitule justement Guerre de Vendée, la chanson titre.
Au bout du chemin de terre qui conduit au presbytère, ils ont tué notre abbé. Les soldats de Robespierre font la chasse aux réfractaires, ils ont la mort au poignet. Déjà dans tout le bocage, les gens quittent leur village pour lever la grande armée. Paysans en sabots, les aristos en jabot, des milliers de gars sont prêts. Ce n'est pas joli la guerre, mais il faut parfois la faire lorsque l'on est agressé. C'est pourquoi Dieu nous soutienne, notre premier requiem est pour les morts de Vendée.
Voilà, c'est prometteur.
Voilà, ça chauffe bien.
Ça chauffe bien.
Et puis, vous avez vu un petit peu les paroles. Il est par là.
Elles sont écrites indéniablement.
Voilà, elles sont dans le fascicule là que je vous ai.
Le fascicule, voilà.
Voilà. Et donc, il y a vraiment de très belles paroles. Donc, il y a cette évocation qui n'est pas sur le livret. Et puis, il y a une introduction sur le populicide de la Vendée, donc le terme de Gracchus Babeuf, qui, avec quelques citations vraiment poignante de ceux qui ont voulu détruire la Vendée, et ensuite cette évocation à la fois des guerres de Vendée et puis de la chouannerie. Il y a donc dans le livret les accords d'accompagnement, donc on peut chanter ces chansons, et il y a également la musique, c'est-à-dire il y a la partie avec les chansons et puis la partie musique si on veut faire ce qui se fait beaucoup actuellement, du karaoké. Donc on peut diffuser la musique et ensuite on chante les paroles.
On va avoir des messages. Hein, il faut dire Chiara, d'accord.
Voilà. Le spectacle d'un prêtre en soutane qui fait la promotion du karaoké, c'est pas bien qu'à Radio Courtoisie qu'on peut trouver.
Voilà. Et qui vous cite Gracchus Babeuf sur Radio Courtoisie.
Oui, voilà. Donc, Monsieur de Beketch a dit qu'il voterait pour Le Pen. Monsieur de Beketch, bon catholique, ce que je crois, veut mettre à la tête de la France un divorcé. Bravo.
Je rappelle que Monsieur Le Pen n'est pas divorcé au regard de la foi, puisqu'il ne s'est malheureusement jamais marié à l'Église.
Voilà. Bien dit.
Ça ne le justifie pas, mais en tout cas, au point de vue de la foi catholique, il n'est pas divorcé. Alors, il n'est pas marié non plus.
Votez Ségolène qui vit en concubinage et qui promeut l'homoparentalité.
Voilà, donc ce disque, Jean Pax Mes Frères, vous en parlerez effectivement mercredi prochain, vous en reparlerez vendredi prochain. Mercredi prochain, signature donc le jeudi 13 juillet à partir de 15h à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont. Que tous ceux qui sont à Paris en juillet ou dans la région parisienne, eh bien, viennent voir Jean Pax Mes Frères. Il y aura tous ses autres disques, bien sûr, ses bouquins, etc. etc.
RER Saint-Michel, sortie Notre-Dame.
Voilà.
Et si vous le permettez, monsieur l'abbé, il faut tirer les oreilles de monsieur de Jacquelot, parce qu'il ne m'a pas envoyé, comme d'habitude, ces merveilleuses annonces.
Voilà, donc monsieur de Jacquelot, envoyez vite un fax avant que votre cote ne baisse à haute vitesse sur Radio Courtoisie.
Oui. Envoyez un pax pendant que vous y êtes.
Voilà, donc je rappelle, vous pouvez commander tout cela. La revue Fidélité en numéro 172 de juillet, le siège de l'Alcazar, le disque Gare de Vendée, vous pouvez le commander dès maintenant. À Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes. Clovis, boîte postale 88 91 152 Étampes. Le téléphone, c'est le 01 69 78 30 23. 01 69 78 30 23. Et bien sûr, la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont. Je donne les prix. Le siège de l'Alcazar, c'est 29€. Et le disque de Jean-Pierre Mesfray, c'est 13,80€. Et le fidélitaire, c'est donc 7,50€ franco de port si vous le commandez à Clovis.
Alors, à propos de fidélitaire, monsieur l'abbé Cellier, j'espère que le dernier fidélitaire en question sera lu et mis en pratique par beaucoup de membres de la fraternité Saint-Pidis, où il est dit, ce journal où il est dit qu'il faut être joyeux, parce que la gaieté n'est pas leur vertu cardinale.
Eh bien, effectivement, nous rappelons que la joie peut coexister avec telle ou telle tristesse temporelle. Si j'ai mal au pied, par exemple, si mon enfant vient d'avoir le bac, je suis joyeux. Si j'ai mal au pied, j'ai mal au pied. Donc la joie peut coexister, une joie temporelle en l'occurrence, peut coexister avec une certaine peine physique, par exemple, mais que la joie est un des éléments de la vie chrétienne, et que saint Thomas consacre à la joie une grande question de la somme théologique, et il montre que c'est la fleur de la charité. Celui qui aime Dieu et qui aime son prochain, eh bien, est dans la joie.
Puisque vous citiez... On va y arriver. On se croirait sur France Inter, là, quand on parle tous en même temps. Puisque vous citiez Gracchus Babeuf, je peux bien citer sur le sujet que vous évoquez à l'instant, Louis Aragon. La joie venait toujours après la peine.
Non, mais c'est... ce que vous venez de dire, il y a autre chose qui m'a frappé, qui m'inquiète, c'est que... Je vais laisser la parler. Si mon enfant réussit le bac, je voudrais bien jeune pour avoir un enfant en âge de passer le bac.
Malheureusement, les apparences, je le sais, sont trop trompeuses, mais malheureusement...
Il y a d'autres raisons qui font que vous n'avez pas d'enfant.
Oui, bon, j'aime pas les enfants, puisque j'ai passé 11 ans dans une école et que je suis une famille de 11 enfants. Donc
vous en avez 20 millions peut-être, voilà, d'enfants. Bah,
vous savez, j'ai un confrère comme ça, comment on appelle ça, les gens du voyage, femme du voyage, là, comment ça s'appelle, une gitane, qui lui demande, moi j'ai pour mes enfants, etc. Alors il répond, j'en ai 175 enfants, puisqu'on était à l'école Saint-Michel, il y avait 175 élèves. J'ai 175 enfants. Et elle répond du tac au tac, tous de la même femme.
Très joli. Bravo, Victoria.
Et puis, alors les plaisanteries, par conséquent, sont admises, puisqu'on est dans la folle gaieté. Monsieur l'abbé, savez-vous pourquoi Noé n'a pas trouvé utile d'écraser le couple de moustiques?
C'est-à-dire, oui, c'était, parce qu'il avait l'ordre de préserver tous les animaux. C'est ça. C'était au bon Dieu de décider. C'est plutôt au bon Dieu qu'il fallait demander pourquoi il y a des moustiques.
On n'ose pas aller lui demander des comptes, mais pourtant.
Et alors, le marquis prend son paquet aussi. Il serait bon que vous révisiez votre géographie. Sirion et Clermont-Ferrand sont en Auvergne. Millau, Roquefort et Estaing, ainsi que Conques et Rodez, sont en Rouergue. Et la Ligaud n'est pas un plat auvergnat, mais originaire du plateau d'Aubrac en Rouergue. Restons chauvins.
J'explique l'origine de ce message tout de suite après le message. C'est un lecteur très attentif, doté d'une loupe, de son article « Troisième âge en Auvergne et en autocar ». Et ce sont des critiques un petit peu trop pointilleuses, je dirais.
Mais il faut saluer quand même le plateau d'Aubrac, qui est un des lieux les plus beaux de France et, je pense, du monde.
Puis au moins, on est tranquille, on ne rencontre pas beaucoup de baigneurs pour qu'ils vont à la plage.
Voilà, et donc c'est un lieu où je passe mes vacances depuis de longues années, et c'est un très beau lieu, le village d'Aubrac, c'est un village magnifique, et est des lieux où souffle l'esprit.
Vous êtes auvergnat
Non, je ne suis pas auvergnat, mais je passe mes vacances là avec mon confrère qui est supérieur d'Italie, et donc il est des lieux où souffle l'esprit, comme disait Barrès, et l'Aubrac en est un.
Vous avez des citations qui sont limite quand même. Barrès, tout à l'heure, Drunon...
Bacchus, Gragueuf.
Merci, monsieur l'abbé.
Et monsieur, attends, j'ai pas fini. Attends, avec Pierre. Mais vous aussi, vous prenez votre paquet par ailleurs, là. Je crois que Gide avait fait de la publicité, non pas à Claudel, mais à Mauriac.
Non, je crois que c'est vraiment Claudel. Mauriac, c'est une autre histoire. Mais je crois vraiment me rappeler que c'est. Non, Mauriac, c'est que c'était le fameux télégramme qui avait été envoyé à la mort de Claudel par. À la mort de Gide.
Oui, Gide à Mauriac.
Quelqu'un avait envoyé à Mauriac un télégramme signé Gide au lendemain de la mort de Gide qui disait
L'enfer n'existe pas,
préviens Claudel.
Voilà.
Préviens Mauriac. Voilà. Il m'a envoyé à Claudel, préviens Mauriac.
Voilà. On a longtemps dit que c'était celui qui est mort en voiture, comment il s'appelle
Camus.
Non. Nimier, on a souvent dit que c'était Nimier. En fait, on l'a su il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années.
C'est une femme.
Voilà, qui l'a avoué.
Voilà, maintenant que nous avons fait preuve de notre culture périsiano-littéraire, nous ne pouvons pas... Oui, mais il faut vraiment plus
tard. Il faut arrêter un moment.
Un tout petit peu, pourquoi un supérieur de la fraternité n'est pas élu à vie comme le pape?
Eh bien, parce que ce sont des règles différentes. Ceux qui sont élus à vie, par exemple, bon, c'est le pape, effectivement, c'est les abbés des monastères bénédictins et le supérieur général, le général, donc, des jésuites. Et puis d'autres congrégations, c'est comme ça. Monseigneur Lefebvre a décidé que ce serait un mandat de 12 ans. Il a imité ça tout simplement de sa propre congrégation, c'est-à-dire les spiritains qui avaient cela. Moi, je pense que 12 ans, ça donne le temps de connaître les affaires, de les mener, etc. Puis au bout de 12 ans, faut un peu respirer aussi. On a envie que ça change.
Et pas trop jeune.
Voilà, faut que ça change un peu.
Et puis alors, une question tout à fait personnelle et de détail. Monsieur Labissély est-il en rupture de stock de l'histoire assassinée de Jacques Herz? Je ne l'ai toujours pas reçu.
Eh bien,
à Serge de Becquetch pour sa sainte colère.
Pas à ce propos-là.
Non, j'ai reçu.
Pas de rapport.
Alors pourquoi?
Eh bien, je pense qu'il doit y avoir un petit problème technique et je vais de ce pas prendre mon téléphone et hurler sur les gens des temples, les malheureux.
Vous avez bien raison, faut les battre. Merci, monsieur l'abbé, et puis à très bientôt. On viendra nous voir.
Si vous me lancez,
merci beaucoup. Bonne soirée.
Pour enchaîner la promotion du Libre Journal sur celle des éditions Clovis, je suis un peu jaloux d'ailleurs du promoteur, de son talent et de son dynamisme et de son efficience. Je montrerai immédiatement aux auditeurs comment on fait un 1-2 en dehors du terrain de football.
Dites-moi ça.
Alors ça y est, vous m'avez lancé, je vous renvoie la balle immédiatement, 1-2, en vous disant, Serge, il y a une exclusivité dans ce numéro 382, alerte rouge, un risque de pandémie mortelle pour la rentrée, vous en avez déjà touché un mot par téléphone à Amiche mercredi dernier, mais il faudrait dire un mot donc de cette double page 4-5 dans le Libre Journal 382, c'est sérieux, on est en survie?
Mais moi je ne sais pas si c'est sérieux, parce que je ne fais pas de pronostic sur cette affaire, je dis simplement voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une réunion à la mairie de Paris au cours de laquelle le maire de Paris a fait savoir aux membres du collectif, du comité
philosophique,
le comité d'éthique funéraire qui est chargé de surveiller, enfin de donner des avis sur l'organisation sur l'organisation des obsèques à Paris. Il a donc il les a prévenus que on redoutait pour la rentrée une pandémie liée à la grippe dite aviaire, qui, a-t-il dit, dont on pense, a-t-il dit, qu'elle risquait de faire plus de morts que la fameuse grippe espagnole, et que donc on serait amené à supprimer les obsèques religieuses, d'abord pour ne pas participer à la contagion en général, et puis pour gagner du temps, de pouvoir inhumer les gens assez rapidement sans prendre trop de risques. Voilà ce que je raconte, et je donne d'autre part des détails, notamment des conseils qui ont été donnés par des médecins qui avaient eu la même information avant d'ailleurs, et qui ont prévenu leurs patients en disant équipez-vous de tel et tel et tel objet, notamment des masques de protection, et puis qui leur ont fait des ordonnances pour obtenir deux médicaments qui sont réputés limiter les dégâts de cette contagion. Voilà ce qu'on sait. Bon, cela dit, ce matin, j'ai entendu qu'il y a eu une nouvelle une menace de pandémie de
chikungunya.
Non pas de chikungunya, mais de fièvre hémorragique qui se manifeste en Turquie. Donc bon, c'est partout comme ça, c'est tout le temps comme ça, partout. Il y a un risque qui est lié naturellement à la mobilité de plus en plus grande des gens qui prennent l'avion, qui viennent, que les gens vont à l'étranger, les Français vont à l'étranger, les étrangers viennent en France, ça fait des mélanges. Puis il y a de très gros risques, bien entendu, mais qui sont constants. C'est pas, ça commence pas, ça a pas commencé cette fois-ci. Là, simplement, il semble que les autorités s'en soient émues et il n'y a pas de raison de ne pas informer le public. Moi, je n'essaye pas de semer la panique. Je dis simplement, voilà ce que j'ai appris. Maintenant, chacun est grand garçon, chacun fait ce qu'il veut. Si les gens ont envie de s'exiler dans une île du Pacifique pour éviter ça, c'est leur responsabilité. Pour ma part, je resterai de pied ferme à Paris, enfermé dans mon appartement après avoir soigneusement calfeutré portes et fenêtres.
Et après avoir pris un masque.
Et après avoir pris deux masques.
Voilà. Alors Serge, résumé la deux pages très denses là, qui paraissent dans le Libre Journal numéro 382, je tiens à souligner qu'il nous arrive d'imprimer des choses pas totalement vérifiable à 100%, mais là, on est vraiment très en retrait, très modéré. On donne une série d'informations qui, elles, sont tout à fait vérifiables et vérifiées. Et en particulier, c'est significatif que des institutions comme la mairie de Paris, qui ne sont peut-être pas les plus prévoyantes et les mieux avisées du monde, commencent déjà à commander les cercueils en masse, toujours sans vouloir affoler les gens. Bon, ça n'a pas été repris pour l'instant, mais enfin, on va pas s'énerver, n'est-ce pas, Serge? Parce que quand on a balancé l'affaire des islamistes infiltrés dans les services et les zones de sécurité de Roissy, on a dû patienter 2 ans et demi pour être pris. Donc, on va patienter cette fois encore, mais les auditeurs avisés vont commander ce numéro 382. Ils y trouveront aussi la chronique de François Brignot, une signature historique de la presse patriotique qu'on ne présente plus et qui nous raconte dans son style inimitable l'affrontement entre messieurs de Villepin et Hollande. Nous continuons, ça fait 3 numéros de suite, à traiter du football et à signaler quand même quelques irrégularités au niveau de l'équipe de France comme au niveau international, comme au niveau des institutions comme la FIFA, l'UEFA, etc., que toute la presse, bien entendu, toute la grosse presse a choisi de passer sous silence maintenant, à l'exception des difficultés judiciaires de la Squadra Azzurra, du fait que plus de la moitié de l'équipe nationale italienne est menacée de sanctions judiciaires en ce moment. Ça n'est qu'un des éléments de cet article sur le football. On a un article sur Monseigneur Santène, le langage très ferme, évêque de Vannes, le langage très ferme qu'il a tenu contre le Technoval dans le Morbihan. Il faut rappeler quand même qu'il a été suivi par le tribunal administratif de Rennes qui a rendu un arrêt ou un arrêté contre ce Technoval que la préfète de la région a immédiatement bafoué. Ça, je pense quand même que ça soulève des questions juridiques intéressantes sur lesquelles on reviendra. Qu'est-ce qu'on a encore ? Je le répète une troisième fois parce que j'ai vraiment adoré cet article, ce reportage de notre divin marquis qui délaisse ses palaces et ses bateaux de croisière luxueux pour une fois pour monter dans un autocar avec des retraités et aller faire un reportage en Auvergne. C'est absolument délicieux, c'est à mourir de rire, c'est un vrai reportage. Vraiment, j'ai adoré cet article, j'ai déjà dit, et je le répète. Naturellement, on commente la Gay Pride, naturellement, on commente l'évangile de Judas qu'on essaie de nous resservir une fois de plus. On a Nicolas Bonnal nous donne encore un article que même moi je peux comprendre sur l'économie, l'inflation mondiale qui est passionnant. Bon, je m'arrête là. Ce sont 24 pages que je peux pas toutes détailler. Donc, les avaricieux vont sur le site francecourtoise.info. Les gens sérieux envoient un carnet de timbres ou 5 euros en commandant ce numéro 382. On s'abonne pour un an au prix de 110 euros à l'ordre de SDB, 4 place France List, 75-010 Paris, et je n'ai pas dit, j'ajoute un mot puisque vous me le suggérez d'un clin d'œil, Serge, d'autopromotion, d'autopub pour mon petit pamphlet Batafam tous les jours, qui ne coûte que 10 euros franco, à mon ordre, Patrick Goffman, à l'ordre de Patrick Goffman, chez SDB, 4 place France List, 75-010 Paris.
Bon, comme vous l'avez abusé, je vous mets un pan sur le Goffman. La joie vient après la peine, c'est d'Apollinaire et pas d'Aragon.
Oh mon Dieu, pardon, je demande pardon.
Goffman, ça fait 3 fois que je vous renvoie depuis 2 mois, ça commence à bien faire. La prochaine fois.
J'avais tellement envie de citer Aragon.
Le caractère excessif de vos propos agissent négativement sur vos auditeurs et les déstabilise. Je vous écoute depuis des années et je me suis rendu compte au fil du temps que vous étiez dangereux.
On est là pour tourner cœur.
C'est à moi que ça s'adresse. Et qu'il valait mieux que vous soyez un ennemi du Front National plutôt qu'un ami déclaré qui ne cesse de lui faire du tort. Poilot, je sais pas où corps, voilà. C'est vrai, monsieur, vous avez raison. Je suis démasqué. Ça fait maintenant 40 ans que je suis un ennemi. J'étais déjà l'ennemi du Front National 6 ans avant sa fondation. Et vous voyez que finalement, c'est vrai que j'ai servi à quelque chose parce que il est passé de au temps où j'étais candidat dans les banlieues où il y avait des coups de pied au cul à prendre, il était à 0,07%, tandis que maintenant il est au deuxième tour des élections, hein. Donc ça sert bien d'avoir des mecs dangereux comme moi, hein, mon loulou. Non, non, ça va, j'ai content. Bien, allez.
Et alors, attends.
Ça suffit.
C'est un rajout pour
M.
Goffman. C'est un rajout pour M. Goffman.
Laissez-la parler.
Un auditeur dit, pouvez-vous parler du texte de Marie-Claude Monchot ? Vous n'en avez pas parlé.
Et il est très bon, comme d'habitude. Mais on a plus
de temps. Mais c'est vrai. Encore en tort, parce que c'est Marie-Claude Monchot, c'est une dame délicieuse qui nous envoie de la Rochelle. Ben, c'est dans ce numéro-ci, mon langage des fleurs, c'est-à-dire qu'elle a fait une espèce de florilège où elle fait parler les fleurs avec beaucoup d'esprit et beaucoup de délicatesse.
Même les pharmaciens ne peuvent obtenir de masques pour se protéger de la grippe aviaire. Ceux qui protègent vraiment sont réquisitionnés par le gouvernement. Le peuple peut crever. Mais ça, c'est la vérité, bien sûr.
À la trappe.
Alors maintenant, je me tourne vers notre invité, Alexandre Barbera Ivanov, qui est un peintre. Alors, pour inviter un peintre à la radio, c'est un peu aventureux, mais j'ai pas pu résister parce que j'ai une telle passion pour sa peinture, une peinture extrêmement figurative. Des portraits magnifiques de corsaires. Pourquoi des portraits de corsaires?
Pourquoi pas?
C'est bonne réponse. Merci d'être venu. Vous pouvez retourner
merci.
À Saint-Malo.
Bonsoir.
Un corsaire, ça représente beaucoup de choses dans l'esprit. Ce n'est pas qu'un portrait, comme le portrait de quelqu'un qu'on met chez soi. Il faut que ce soit de sa famille. Un corsaire, c'est un être un peu mythique. Comme un indien, par exemple, un cow-boy, n'importe quel personnage qui représente plus que lui-même. Alors le corsaire me plaît pour le j'y ai admis des valeurs de caractère fort. Il n'avait quasiment pas de règles, ou alors il avait les mêmes règles que le pirate, c'est-à-dire qu'il faisait exactement comme lui.
Il avait
le drapeau.
C'est comme la police, ils font le même métier, mais il y en a qui ont le droit.
Bon, exactement, il avait le droit avec le roi. Donc c'est vrai que je fais souvent des comparaisons assez christiques, et je comparais le Christ à un corsaire et le pirate à un démon. démon. Alors l'année dernière à Saint-Malo, et ça avait fait un peu les interroger la presse sur mes ma conception de du corsaire. C'est la première fois qu'ils entendaient ce genre de comparaison hein, à Saint-Malo.
Ce qui est étonnant, c'est que, comme, vous, comme l'auditeur attentif et avisé aura pu l'imaginer, quand on s'appelle Alexandre Barbera Ivanov, et même Alexandre Sergeyevitch Barbera Ivanov, on est plutôt d'origine russe.
Plutôt d'origine russe.
Est-ce qu'on est apparenté au peintre Ivanov, qui était exposé récemment à l'ambassade de Russie, qui a même pensé à nous inviter à l'occasion
Oui, mais je suis aussi d'origine espagnole. Donc,
Vous êtes apparenté au peintre Ivanov ouais.
Tenez,
c'est ça. Qui est un peintre magnifique. Si, si, il est venu.
J'ai reçu l'invitation un peu tard, mais le marquis.
Ah non, c'est le marquis qui était là.
Le marquis est venu à l'ambassade et je pense qu'il va rendre compte bientôt.
Qui est un peintre magnifique, alors qu'il a eu une aventure, lui, extraordinaire, quand il a quitté la Russie. Pendant la Révolution, son périple est passionnant à lire. Mais on ne s'attend pas à ce que l'âme russe puisse engendrer une telle passion pour des corsaires, parce que les grands voiliers sont pas chose très courante dans la steppe.
Non, ni dans mes tableaux d'ailleurs. Je fais surtout des portraits de caractère. Ceci dit, je fais des portraits de toutes sortes, d'enfants, de femmes. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'œil de pâte en bois, d'œil caché. Non, ce sont des caractères forts simplement. Il n'y a pas de caricature.
Alors, sur le plan technique, vous avez une peinture qui, je disais, qui est très très figurative et qui en même temps est, y a une dose d'irréel dedans, une dose de magie dans la peinture. C'est-à-dire que les personnages sont de pleine chair, mais on a l'impression qu'ils appartiennent à un autre espace-temps, on va dire, à une autre planète.
Oui, alors.
Comment ça vient de quoi, ça,
c'est peut-être que... de la facture, de la touche. Je travaille la matière de beaucoup de. Les glacis, je ne sais pas si c'est ça dont vous voulez parler. C'est de la facture ou de l'expression des personnages?
Non, les expressions sont des expressions assez théâtrales en général.
Oui.
Ça, on voit bien, il y a une recherche de ça, de
théâtralité. Non, oui.
Mais, non, la chair même des personnages, elle a quelque chose d'un peu irréel. Je vois par exemple, il y a un portrait de Cupid. Corsaire. Cupidon. Et alors là, on retrouve.
C'est plutôt un pirate, à mon avis.
Oui. On retrouve cette façon de peindre la chair, la carnation, qui fait venir la lumière de l'intérieur du.
Ah, et comme saint Paul qui parlait du Christ qui illuminait de l'intérieur, non ouais. C'est Rembrandt qui a écrit sur un tableau saint Paul, c'est moi. Mais on voit dans les tableaux de Rembrandt, c'est les personnages illuminés de l'intérieur, oui. Quelque chose de peut-être de chrétien.
Est-ce qu'il y a une... Enfin, c'est une question un peu idiote, mais c'est une technique particulière qui permet d'obtenir cet effet, ou est-ce que ça vient d'une façon surnaturelle quand le tableau se fait.
Je pense que ça vient peut-être de l'harmonie générale du tableau où je concentre la lumière beaucoup vers le dans des zones prioritaires dans le centre du tableau, peut-être quelque chose comme disait mon professeur Christian Welter qui est un très 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 bon peintre. Il n'y a plus de lumière actuellement dans la peinture au XXe siècle. Et comme si donc la lumière dans le sens opposition à l'ombre, comme si quelque chose de divin était parti au XXe siècle.
Et c'était parti, c'était avait disparu.
Avait disparu de la représentation picturale, oui. Et c'est vrai que je cherche beaucoup des références comme celle de Velázquez, Rembrandt, Caravaggio. Donc la lumière, elle, est très très importante. Et elle centre la composition du tableau dans une surface finie.
Oui. Alors, en plus, il y a une grande recherche de la. Je ne connais pas les mots techniques, mais de la température. C'est-à-dire que vos bleus sont froids, et les rouges, les jaunes sont complètement brûlants.
Je voulais voir de près parce qu'il y a 10 couleurs en une.
Ouais. Si, oui, alors, quand, il y a notamment sur votre site internet, dont je donnerai l'adresse tout à l'heure, il y a des agrandissements qui sont très très. très représentatif, très très, ils expliquent très très bien la façon dont vous travaillez, et on voit à quel point chaque millimètre carré de toile est travaillé, retravaillé. Il y a 10, 15, 20 couches de peinture. On a l'impression que c'est
ça. Oui.
Alors ça prend une épaisseur, ça prend un volume, ça prend.
C'est l'insatisfaction permanente. Je trouvais un peu étrange les artistes ou les amateurs d'art qui se mettent devant un tableau sans bouger pendant deux heures comme ça. Je pense qu'un tableau, il faut le voir de près, ensuite se reculer, le voir de loin, en apprécier l'ensemble, revoir, ça doit donner envie après de retourner voir le détail et de réajuster ça dans une harmonie d'ensemble, sans arrêt. Quand je peins, je fais ça d'ailleurs, donc c'est un peu l'amour, on va dire.
Cette insatisfaction dont vous parlez, son mot technique ou dans le jargon de la peinture, c'est repentir, et c'est tout à fait charmant si on veut bien y songer.
Oui.
Est-ce que vous vous racontez une histoire quand vous peignez quelque chose ? Est-ce que vos personnages sont simplement des silhouettes ? Bon, c'est pas sur le plan du dessin, ce sont pas du tout des silhouettes. Ils sont très achevés, mais est-ce que vous seriez capable de raconter l'histoire du fumeur de Havane, par exemple, ou,
oui, bien sûr,
ou de cet homme qui regarde à la longue vue?
Oui, voilà, le clairvoyant. Non, mais je ne raconte pas des histoires, si vous voulez, mais je suis capable de donner, comme un musicien demande à ses interprètes de jouer ça allegro, ou il donne des indications, disons. J'aime bien donner des indications, des petits textes pour non pas expliquer mes tableaux, mais comme le spectateur interprète mes tableaux, lui donner des indications simplement, parce que bon, lui livrer en peinture quelque chose comme ça, je ne crois pas que ce soit très riche. Chacun va ressentir évidemment ce qu'il veut, mais donc je préfère donner quelques indications. Il ressentira ce qu'il veut après, l'adapter comme on adapte des musiques dans toutes sortes de tonalités, mais il aura quand même les indications de l'auteur.
La première fois que j'ai vu vos tableaux, ma réaction, ça a été de dire, ah, j'ai envie d'écrire une nouvelle autour de chaque toile. Vraiment, pas forcément de raconter l'histoire de la toile, même pas ça du tout, mais de faire apparaître le personnage ou un détail du tableau dans une nouvelle, parce que c'est vraiment des tableaux en profondeur, on a l'impression c'est des choses vivantes qui ont encore une fois, de la viande. Il y a une ambiance extraordinaire. Puis alors, il y a la technique, alors même de la peinture, qui est aujourd'hui, quand on voit ce qu'on ose nous présenter dans certaines galeries, dans certains musées, quand on voit le fric qui a été dépensé à Venise pour emplir le Palazzo Grazzi de ses ordures, c'est pas, il n'y a pas d'autre mot, hein, et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut encore avoir le culot, l'infernal culot, ou plutôt le culot divin, je dirais, de peindre comme vous peignez? Parce que quand vous allez chez les galeristes, vous êtes reçu comment?
Je n'y vais pas, parce que j'ai une impression que depuis qu'il y a des marchands d'art, la peinture a régressé de mon point de vue. Donc je n'y vais pas. Alors peut-être les marchands d'art, les premiers étaient des collectionneurs, ont lancé les impressionnistes, ont collectionné les impressionnistes, vraiment. Et cette histoire d'intermédiaire, après, a dégénéré, je pense. Et je crois qu'ils se fichent complètement de ce que peint l'artiste. Et ils vendraient n'importe quoi. Donc, je ne veux pas critiquer tous les marchands d'art, puisqu'il y a certainement des gens qui au moins au départ, y croient. Mais à la longue, je pense qu'il est un peu s'insinuer quelque chose de néfaste.
Vous êtes un naturel agressif dans la vie ou
pas? Non, je suis très gentil.
Parce que on peut être très gentil et très agressif, parce que votre peinture, on a l'impression qu'elle va au-devant des ennuis.
Oui.
Et je pense à ça parce que il y a ce tableau extraordinaire qui s'appelle Le Vautour ou Le Marchand d'art. Ça, c'est quand même bien vu. Et alors, on vous pose la question, pensez-vous, d'ailleurs c'est vous-même qui vous posez la question, parce que vous vous auto-interviewez, pensez-vous que quelqu'un puisse accrocher chez lui un tableau comme Le Vautour? Alors voilà la réponse. Figurez-vous que mes œuvres ne sont pas élaborées en vue d'être assorties au rideau de mes mères.
Monsieur Ivanov est très jeune encore. C'est pas de l'agressivité, quoi. C'est de la.
C'est du
l'allant de la jeunesse.
Voilà, c'est un peu après un match de foot, comme ça, on écrit des auto-interviews. Non, pas du tout. Mais bon, je ne cherche pas à être agressif. Je dis simplement, c'est intéressant de dire la façon dont le contexte qui permet d'élaborer de telles œuvres.
Qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous conduit à choisir un sujet, à choisir à mettre en scène un personnage? Est-ce que c'est purement imaginaire ou est-ce que vous travaillez sur le modèle?
Non, je travaille sur le modèle, oui.
Ah ouais. Oui. Donc d'abord, il faut que vous trouviez des gueules.
Oui, oui, oui. Donc parfois, des têtes comme la vôtre m'inspirent et je demande aux gens, voilà, dans telle situation, j'interprète, je pose un décor ou des costumes. Oui.
Et alors, à partir de là, c'est donc le visage, ou oui, enfin le visage et l'allure générale du...
Une association de différentes choses peuvent me pousser à vouloir dire quelque chose, par exemple, oui. Vous pouvez voir sur le site internet des petits textes qui donnent l'intonation de mes tableaux, comme ça vous comprendrez pourquoi je mets, par exemple, dans Fleur Bleue, un corsaire qui nous regarde droit dans les yeux avec une petite fleur bleue comme ça, nous présente une fleur bleue. En même temps, et dans son regard, alors c'est ça qui m'intéresse, le regard. Je me demande pourquoi je fais ça et non pas des natures mortes, pourquoi pas des paysages, des petits bateaux, des petites fleurs. Parce que, en fait, c'est très joli, j'aime beaucoup j'adore les natures mortes, les bateaux, les petites fleurs. Tout dépend de la qualité avec laquelle c'est peint. Ceci dit, le regard et la personnalité, le moi, l'humain m'intéresse plus. Et ce qui me pousse à peindre, c'est le regard souvent.
Le site internet, Serge, je vous le redonnerai tout à l'heure, mais oui. Je le donne tout de suite parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en train de piaffer et de se dire que ce serait quand même plus agréable d'écouter Monsieur Ivanov en regardant ces tableaux. Et ils peuvent le faire donc en tapant Alexandre Barbera. En un seul mot, -Ivanov avec deux F à la fin, .com. Alexandre Barbera, -Ivanov, deux F, .com.
Avec les trois W avant, hein, comme des trois W points. Voilà. Alors, justement, vous parliez du regard, et ça, c'est quand même quelque chose sur laquelle je m'interroge depuis que j'ai vu vos toiles. Comment, techniquement, arrivez-vous à rendre un regard d'une façon aussi prodigieusement réaliste? C'est-à-dire, il y a un autoportrait de vous, où vous couvrez votre visage d'une espèce de masque d'argile verte.
C'est ça, oui.
C'est-à-dire que les yeux et ce regard, enfin, je sais bien que ce que je vais dire va faire hurler les véritables amateurs de peinture, parce qu'ils vont me dire c'est exactement une déclaration de crétin béotien, mais c'est une photographie, c'est-à-dire c'est pas de la peinture, c'est le regard, il est absolument vivant.
Oui, il y a des petits secrets techniques qui sont soufflés à l'oreille, qu'on n'apprend pas à l'école, c'est de mettre à élève, comme ça, oui, faire un œil.
Il y a un autre tableau encore plus incroyable, c'est ce tableau qui s'appelle « Quand je serai roi », où il y a un enfant qui a un regard. Alors si jamais, un jour, quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'un regard nostalgique, il faut lui donner ce tableau, parce que c'est... Mais je suis stupéfait de voir les résultats qu'on peut obtenir par la technique.
Il faut venir voir les tableaux à Saint-Malo en ce moment. Ils sont tous exposés tout l'été. Vous trouverez gratuitement d'ailleurs les auto-interviews. Chaque année, je m'auto-interview et je distribue au public mes auto-interviews donc à tout le monde.
Alors j'en publie une dans le prochain numéro du Livre Journal, parce que j'étais tellement ébloui et séduit par cette peinture que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose ou il faut que j'en parle. Et j'ai donc choisi de faire deux pages couleur dans le journal, ce qui n'arrive jamais.
Sauf à Noël.
Mais là, moi, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Goffman, de cette peinture?
La même chose que vous, patron, hein. C'est vraiment. Moi, je cherchais un mot, surréalisme, parce que, comme vous le disiez à l'instant, c'est très réaliste, et en même temps, c'est fantastique, et je découvre que vous avez baptisé essentialiste votre peinture.
Alors là, oui, j'ai lancé le manifeste de l'art essentialiste. Alors, l'art essentialiste, je colle bien les deux termes, parce que l'essentialisme, peut-être, est un mot utilisé en philosophie, en économie, en histoire, Dieu sait où. Donc là, moi, c'est une conception tout à fait personnelle, hein, l'art essentialiste. Si vous voulez, vous pouvez l'obtenir sur Internet. Ce sont des réflexions, finalement, qui forment comme une grille de lecture très précise sur les artistes essentialistes. réalistes qu'on découvre finalement à travers les siècles. Et pour moi, bon, c'est là vraiment ce que je trouve le plus important, si je dois dire quelque chose, c'est ça. Il y a un arrière-plan chrétien, évidemment, derrière ce terme d'art essentialiste. On peut y inclure vraiment tous les beaucoup d'artistes de toutes sortes d'époques mais essentiellement des artistes de pays chrétiens. On remarquera que la mélodie, par exemple, en musique, comment définiriez-vous la mélodie, si ce n'est, bon, quelque chose qui se retient, certes, quelque chose qui a un début et une fin, comme dit le Christ, un alpha et un oméga, qui se retient, donc, et qu'on peut reproduire. Et voilà, donc, la mélodie ne se retrouve que dans les peuples de culture chrétienne.
C'est vrai.
Oui. Et par contre, ça respecte énormément les traditions des gens, leur personnalité, leur style, leur culture, leurs coutumes. Mais voilà, donc on retrouve ça. Ce n'est pas forcément de l'accumulation du rythme, de l'agrégation de sons les uns sur les autres, même parfois très beaux, comme dans les autres cultures. C'est aussi une mélodie qui a un début et une fin, un alpha, un oméga. Donc les œuvres, quand je les compose, je les pense dans un cadre, avec une source de lumière, et pas comme les œuvres des, par exemple, des peintres chinois qui se déroulent à l'infini et toujours très beau, très mental comme ça. C'est fermé autour d'elle-même. Je pense que pour arriver à voir quelque chose dans son unité, dans sa temporalité, dans son drame du temps, c'est-à-dire le voir passer devant soi, il faut se dégager justement du temps. Il faut être un petit peu dans l'éternité, vous voyez. Donc à ce moment-là, l'artiste voit la beauté, peut voir ou révéler en tout cas, pas forcément la beauté, mais révéler même la laideur, enfin tout ce qu'il voit d'essentiel dans le permanent. Voilà. Et à ce moment-là, ça prend une forme belle. Parce que ça ne cache pas, ça ne dissimule pas.
Vous avez également fait des tableaux.
Excusez-moi. À l'eau de la Noé.
Des tableaux très japonisants.
Oui, j'admire la culture japonaise, notamment.
C'est lié à quoi, ça, cette passion pour...
Mais je n'ai pas trop d'explications, je dois vous dire. Je n'ai pas été élevé dans la culture japonaise, ça ne vient pas de mon éducation, ni de... Je ne sais pas. Les corsaires, c'est pareil. Quand je fais quelque chose, je ne sais pas trop où ça vient. Ce sont des... c'est la vie.
De l'inspiration.
Voilà, l'inspiration. Question très triviale, mais... Qui achète vos tableaux ?
Plutôt, je vais vous dire, j'ai remarqué que ce sont plutôt des professions libérales.
Elles ont les moyens d'abord ?
Non, je pense pas le lier à cela, mais le lier à une façon de penser. J'en ai déduit peut-être quelque chose, c'est que quand on a un salaire fixe, tous les mois, le même salaire qui tombe, on est peut-être dégagé de quelque chose de naturel. Où est-ce que dans la nature, tous les mois, le lion ou le bon, je, sans ramener l'homme, voilà. Alors une profession libérale, lui doit, s'il ne travaille pas, il meurt à la limite. J'exagère, mais bon, pour aboutir le raisonnement. Et donc, il est collé finalement à la réalité et à l'essence de la vie, peut-être à un sens, quelque chose. Il a un sens de la vie. Quand on pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a un salaire, disons, fixe, où on n'est pas, je suis pas spécialiste. Je dis ça, ce sont des réflexions de peintre. J'ai plutôt l'habitude d'être seul devant mon chevalet, donc ce sont des réflexions que je n'ai eues avec personne, donc vous pouvez me corriger. Mais quand on a un salaire fixe tous les mois pendant 30 ans, peut-être qu'on pense avec un sens, on se déconnecte d'une réalité et on est mûr pour l'art abstrait peut-être. Sans dire non plus du mal, parce que il y a des très belles choses décoratives dans l'art abstrait, bon. Mais si vous voulez, je pense que c'est une peinture de fonctionnaire, même de haut fonctionnaire, ou même de quelqu'un qui se laisse, qui est déconnecté d'une réalité. Je donne un début matériel à ce raisonnement et qui a une incidence psychologique peut-être. Hein, donc. Peut-être dans les pays où il y a eu beaucoup de fonctionnaires ou des grosses industries lourdes, vraiment, où la personne est abstraite, ouais. Est devenue un numéro. Bon, au début du XXe siècle, ça a formé le terreau de l'art abstrait.
Intéressant. C'est une hypothèse intéressante, en tout cas. Quand on, bon, pour ceux qui n'iront pas, pour les rares Français qui n'iront pas à Saint-Malo cet été.
Oui, parce que tout le monde va y aller. Il fait beau et l'air.
D'abord,
oui.
C'est une ville magnifique.
On supporte
avec
la chaleur.
Quand même, quiconque grogne, c'est pas rien. Non, comme ça, ça doit attirer tout le monde. Est-ce qu'on peut voir vos tableaux quand vous êtes,
Oui, j'expose dans 6 endroits différents. Donc, vous découvrirez, par exemple, déjà, venez au casino. Pour voir
ça,
mes tableaux.
Hein.
Voilà, oui, ouais. Je voulais exposer des pirates au casino pour parce que ça m'amusait. Et puis ça, oui. Finalement, ils ont suivi à leurs risques et périls. Et donc déjà là, vous trouverez une carte avec les autres adresses et puis mes dépliants. Mais j'ai des cartes postales aussi là-bas. Vous verrez les tableaux de près. Je vous autorise à les toucher avant qu'ils ne soient dans les musées protégés par des rayons laser. Donc là, vous pouvez aller voir. J'ai toujours rêvé de toucher les Rembrandt. Et même les Léonard de Vinci, donc là, allez-y. Vous pouvez y aller, c'est en TGV à 3 heures de Paris, c'est agréable, le chemin.
La question originale, c'était, et en dehors de Saint-Malo ?
Eh bien, en dehors de Saint-Malo, le monde entier, c'est de là que sont partis tous les conquérants, là. Tous les corsaires.
Ils se foutent de nous, j'ai l'impression. Bon, Alexandre Barbera.
Il ne veut pas nous dire si on peut voir ces tableaux à Paris, par exemple.
Ah non, pour l'instant, non.
Pour l'instant, non.
Donc c'est Saint-Malo,
découvrir ce qui fait chaud.
Saint-Malo ou le site www.alexandrebarbera-ivanov2f.com.
Oui. Voilà.
Et vraiment, je vous, pour ceux qui ont la chance d'avoir Internet, il y en a de plus en plus, hein. Je vous conseille d'aller voir ces tableaux. La lumière de l'écran ajoute encore à la fascination qu'on peut éprouver. Et puis, on voit le travail, on voit, notamment dans les agrandissements, dans les détails, on voit à quel point le travail du peintre est quelque chose d'immense, enfin c'est vraiment un travail, je dis encore une fois, au millimètre carré, on sent qu'il y a des repentirs, des regrets, des retours, des corrections, des améliorations par toutes petites touches, et on voit par exemple qu'une couleur, c'est jamais une couleur, c'est toujours une constellation de
qui font de rappel à d'autres
points,
couleurs.
Oui. Alors c'est une très très belle peinture que j'aime beaucoup, elle est extrêmement, je l'ai dit, extrêmement figurative dans son traitement matériel, mais elle est complètement elle est du domaine de l'imaginaire dans le contenu, parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de voir des portrait de corsaire.
Bon, corsaire, je disais dans ma dernière auto-interview, celle de l'année dernière, qu'une timbale peinte par Chardin est une timbale corsaire. Voilà, c'est le caractère qui est intéressant, la vie. Pour moi, bon, je ne me focalise pas spécifiquement sur les corsaires. Souvent, vous verrez à quoi peut-on rattacher l'idée de corsaire dans certains de mes tableaux. À rien, en fait. J'attends quelques suiveurs qui feront des pattes en bois et tout ça. Mais bon, si vous regardez plus à fond. Par contre, alors, je voulais dire, le casino offre des vernissages. Donc, si vous voulez y assister, il y en a un le 9 août, ouais. Et un autre le 13 juillet. Enfin, d'abord un le 13 juillet et un autre le 9 août. Donc, si vous voulez réserver une place, je peux citer le téléphone.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, le casino, c'est 02 99 40 64 00.
02, parce que ça se passe en Ille-et-Vilaine.
Voilà, oui. Voilà.
À Saint-Malo, précisément.
Ille-et-Vilaine comme de la nouille. Merci. Merci Alexandre Barbera-Ivanov. Et puis, je suis certain que vous aurez beaucoup de visites. Et je peux assurer aux auditeurs que la réception, que l'accueil sera à la hauteur de la qualité des tableaux, parce qu'on est en harmonie avec Alexandre Barbera-Ivanov.
Merci.
Merci à vous.
Je m'aperçois que je viens de plus en plus dans votre famille.
C'est une bonne famille. Oui. Un peu compliqué, mais plutôt sympathique. Et puis, maintenant, je me tourne vers... Est-ce que vous vous intéressez au cinéma, Alexandre ?
Je n'y vais pas, en fait. Non, je n'ai pas trop le temps non plus.
Est-ce que nous avons ici un...
C'est vrai que, bon, pourquoi pas. Tout est intéressant. Celui qui ne trouve pas d'intérêt nulle part n'est pas intéressant.
Mais c'est encore une question de lumière.
Oui, aussi, oui. Non, mais l'art...
J'ai demandé à Michel de Lucia de venir ce soir, parce que c'est un cinéphile, et on pourrait dire un historien amateur du cinéma. Amateur au sens où il aime le cinéma. Et il s'est fait une spécialité du cinéma de l'occupation.
Oui, absolument.
Probablement parce qu'il vous a laissé des souvenirs vifs et passionnés.
Oui, parce que pendant l'occupation, pendant l'occupation, j'avais 13, 14, 15, 16 ans. À l'époque, on allait beaucoup au cinéma pour oublier un peu la réalité quotidienne. Et j'ai pris goût au cinéma et ensuite, naturellement, à travers les cinémathèques et le grand cinéma français, que j'ai découvert un peu plus tard, c'est-à-dire tous les grands films français depuis 1930 jusque dans les années 50, et il se trouve que ce cinéma, pendant l'occupation, est un cinéma qui est malheureusement peu connu et injustement méconnu.
Et c'est surtout et injustement traité. Hein. Il est traité comme le cinéma de une espèce de cinéma de collaboration.
Ce qui est totalement faux.
Ce qui est totalement,
c'est totalement
idiot.
Faux.
Alors, vous avez une théorie qui est très intéressante, c'est que en fait ce que vous nous dites, ça peut paraître paradoxal, mais vous l'expliquez bien, c'est que jamais le cinéma français n'a été aussi libre que pendant l'occupation.
Absolument. D'ailleurs, tous les grands auteurs honnêtes et non engagés reconnaissent que ça a été l'époque d'or du cinéma français.
Alors qu'on ne s'y trompe pas, il est évident qu'ici, dans cette émission, on ne va pas célébrer les mérites de l'occupation. Il est parfaitement clair que c'est une abomination, que ce sont les heures les plus sombres de notre histoire, et que vraiment, on aurait secours et férins.
Mais c'est pour ça qu'il faut
d'en parler.
Il faut rendre mérite, il faut rendre justice
au domaine,
aux réalisateurs, aux concepteurs, aux acteurs, aux machinistes, à tous les gens de la profession qui, dans cette époque la plus tragique de notre histoire, ont su magnifier le génie français. Et il faut voir qu'ils se sont pliés à aucune contrainte. À aucune contrainte. Parce que, par exemple, la sublime Edwige Feuillère, la Continentale, qui était une société de droit française, mais qui était naturellement sous la surveillance des autorités allemandes, on l'a obligée à tourner un film, Mlle Bonaparte. Elle a accepté parce que son compagnon était israélite et qu'il risquait des représailles. Et lorsqu'il a pu, par l'Espagne ou le Portugal, partir aux États-Unis, ça a été terminé. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les films produits par la Continentale, ils ont produit 30 films sur 220, ces films, il n'y a eu aucun film de propagande. C'est ça qui est extraordinaire.
Ah, il faut quand même dire que Mlle Bonaparte, c'est pas le type du film le plus réussi de cette période.
Non, pas du tout.
C'est une période où il y a eu un cinéma extraordinaire. Un grand film du génie cinématographique français. Vous pouvez en parler, vous, ma chère Victoria, puisque
j'ai tout oublié.
Je pense.
Alzheimer effacé par
la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié.
Oui, parce que ce qui s'est produit, c'est que le docteur Goebbels, qui était le grand maître de la propagande allemande, avait nommé deux fonctionnaires, le docteur Dietrich et un monsieur Alfred Greven, pour surveiller et diriger cette Continentale. Mais là, il a été extrêmement surpris parce que ces deux personnages, eux, se sont identifiés au grand producteur hollywoodien, Jean Zanuck. Et ils ont décidé de faire un cinéma de qualité. Ouais. Et ils se sont trouvés, malgré l'opposition de Goebbels qui les rappelait à l'ordre, ils se sont trouvés aidés, d'une façon assez paradoxale, par les services de sécurité de l'armée allemande, pour lesquels l'objectif essentiel était la paix civile. Et ils se sont dit, donc, si Panem et Surchen, ça c'est peut-être pas beaucoup de Panem, mais on a mis des jeux. Et donc, ces deux personnages ont fait des films extraordinaires. Le Corbeau, Les Inconnus dans la Maison, La Symphonie Fantastique. Alors, Goebbels, dans son journal, s'indignait en disant, c'est un film extraordinaire que j'admire, mais c'est scandaleux que nous, Allemands, nous encourageons le génie français et la propagande nationaliste française, parce que c'est l'histoire de Berlioz.
Pourtant, oui, mais pourtant le cinéma allemand à l'époque n'était pas totalement nul. Il y a eu des grands films.
Ils ont fait de très grands films. Bon, Bellamy. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en France, on n'avait jamais adapté cette œuvre géniale de Maupassant, que les Allemands l'ont adapté avec Hans Albert et qu'ils ont fait un film tout à fait exceptionnel. Bon, le baron de Munchausen, la ville dorée, c'était le triomphe de la fin.
Munchausen, c'est ce qui est complètement extraordinaire, c'est qu'il le tourne en pleine débâcle, en fait.
Oui, et c'est le triomphe de l'Agfa Color. C'est le triomphe de l'Agfa Color.
C'est un des premiers films, des premiers grands films en Agfa Color, et c'est en plus tourné avec le concours de l'armée. C'est-à-dire que, il faut imaginer que dans cette Allemagne qui est en train de s'effondrer sous les coups de boutoir.
Oui, c'est là. Sont les prémices de la débâcle.
Voilà. Il y a quand même des types qui ont dit on va consacrer des soldats, on va détacher des soldats du champ de bataille ou des services de l'arrière et on va leur faire jouer de la figuration dans un film.
Une toute petite parenthèse, Serge, vous savez où réside actuellement l'équipe de France de football ?
À Munchausen.
À Munchausen, absolument. Le château de Munchausen. Alors. Donc le cinéma allemand est un bon cinéma à cette période aussi. D'ailleurs le cinéma anglais est une pure merveille, le cinéma anglais de la même époque aussi, le cinéma américain splendide, le cinéma italien est pas mal non plus. C'est vraiment l'époque de l'explosion du très grand, très beau cinéma européen, occidental.
Ce qu'il y a, c'est que les Allemands sont victimes de tous ces grands metteurs en scène qui se sont exilés aux États-Unis. Tous les grands, ils sont tous aux États-Unis et en Allemagne, il n'est pas resté beaucoup de grands réalisateurs. Hein, Billy Wilder, Fritz Lang, etc. Lubitsch et compagnie étaient partis déjà aux États-Unis. Et alors justement, dans l'esprit des dirigeants allemands, c'était d'exploiter la qualité des réalisateurs français. Mmh. Pour créer un cinéma européen. Mmh. Mais comme ils avaient peur de la concurrence française, au point de vue de la qualité des films, c'est pour ça que Goebbels insistait beaucoup pour qu'on ne fasse que des comédies légères, Jean Caprice, les films de Daniel Darieux, d'Albert Prégent,
et
qui étaient des très bons films d'ailleurs, mais qui étaient des films légers. Mmh. Et tout d'un coup, à la Continentale, ils sont tombés devant un phénomène qui s'appelait Clouseau, qui leur a sorti l'Assassin invite au 21 et ensuite le Corbeau.
Alors, le Corbeau, l'histoire elle-même, enfin le Corbeau a été considéré comme un film de résistance quand il est sorti pendant l'occupation et puis après comme un film de collaboration.
Oui, alors il a été interdit. Clouseau a eu les pires ennuis. Bon, en fait, Greven et Dietrich se sont opposés à ce que Clouseau réalise ce film. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire réelle qui s'est passée dans les années pendant la guerre de 14, en 1917 ou 18 à Tulle, une histoire banale en fait de lettres anonymes, et comme il y avait hélas, il faut le dire, pendant l'occupation, énormément de lettres anonymes qui arrivaient au service allemand.
Il y a un bouquin d'ailleurs d'Alimi que vous avez lu sur les lettres à la commandanture, où il y avait ces lettres admirables qui commençaient en disant « Ce monsieur non content d'être juif
non content
fait du marché noir » et cette phrase « Non content d'être juif » ça résume vraiment la lettre de dénonciation à la commandanture.
Et alors, vous pensez bien que quand vous voyez ce film, c'est une satire féroce. Oui. Contre les lettres anonymes. Et les autorités allemandes n'avaient pas vu ça d'un très bon œil. Mais Clouseau a tellement insisté, il a sorti ce chef-d'œuvre. Alors le pauvre Clouseau, à la libération, il est interdit naturellement d'exercer. Le Corbeau est vilipendé, est interdit de projection. Mais heureusement qu'il y avait en France des gens de tous les horizons intellectuels et politiques qui ont défendu le Corbeau. Il y a Jacques Prévert, il y a de Beauvoir, il y a Jean-Paul Sartre, il y a Michel le grand galeriste, etc. Il y a René Clair, il y a Henri Janson. Tous ces gens-là se sont indignés en disant que c'était scandaleux, que si on arrivait à interdire un film comme Le Corbeau, c'était fini. On n'avait plus qu'à tout interdire.
On a beaucoup de messages pour connaître le numéro actuel de la commandanture. C'est le 114, hein, pour nous balancer. Il n'y a pas de problème.
Oui, c'est ça, c'est
peut-être au 120 rue Lauriston. Et donc, il y a eu tous ces intellectuels. Et Henri Jasson a dit, allons-y carrément. Vous dites que le Corbeau, c'est l'apologie de la dénonciation. Eh bien alors, vous n'avez qu'à interdire Pension Mimosa parce que c'est une satire de la bourgeoisie française. Vous n'avez qu'à interdire La Règle du jeu. Alors, ce qui est extraordinaire et assez peu connu, c'est que le 27 août 1939, le commissariat à l'information dont dépendaient les visas d'exploitation des films. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y a un décret qui a été promulgué. Alors, il y a eu l'interdiction de 51 films jugés comme déprimants, morbides, immoraux et fâcheux pour la jeunesse. Décret qui aurait pu être promulgué par Vichy. Hein. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? La Bête humaine, Les Bas-fonds, Ignace, le pauvre Hôtel du Nord, J'accuse.
C'était pour avec, un petit nom charmant.
Avec Victor Francène, qui est un film pacifiste, évidemment. Bon, La Maison du Maltais, Quai des Brumes, Prison de Femmes, Tir au Flanc, La Règle du Jeu. Alors, Le Jour se lève est interdit parce qu'il y a une scène où on voit la magnifique Madame Arletty nue.
Ouais,
alors, ils ont coupé la scène, et le film a reçu son visa d'exploitation. Quand on sait que le grand peintre Moïse Kissling avait peint le nu d'Arletty, mais avec le visage d'un mannequin de Montparnasse, il disait « c'est le plus beau corps de femme que j'ai vu dans ma vie ». Alors, c'est extraordinaire. Alors, ensuite, quelques années...
Ça, c'est le 27 août 1939.
Et en novembre 1939, il y a 9 autres films qui sont interdits. Alors, il y a 4 films pacifiques, il y a 4 de l'infanterie, il y a Tragédie de la mine de Pabst, et il y a 2 films américains, À l'Ouest, rien nouveau de Milestone, et on lui donna un fusil. C'est extraordinaire. Alors, vous avez, tout de suite après, en 1940, La fille du puisatier, de Pagnol, qui est un film absolument merveilleux et extraordinaire.
Avec le discours admirable du maréchal Pétain.
À la Libération, ils ont prétendu que c'était l'appel de De Gaulle.
Ouais,
c'est n'importe quoi. Bon. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez eu, pendant cette période de l'occupation, vous avez eu quelques films qu'on a dû modifier, dont Macao, l'enfer du jeu, parce qu'il y avait Eric von Stroheim. Alors, tout d'un coup, ils se sont dit, on va couper les scènes de von Stroheim, et ils les ont fait interpréter par Pierre Renoir. Et Jean Delannoy, le réalisateur, avait exigé qu'après la guerre, la version avec Renoir soit détruite. Mais moi, j'ai vu les deux.
Ah oui,
ouais, j'ai vu les deux.
Ça ne nous empêche pas de faire des gorges chaudes de la propagande stalinienne qui retouchait les photos et qui remontait les films. Et d'ailleurs, la grande satire de ces méthodes, c'est dans 1984 qu'on réécrit l'histoire en permanence.
De George Orwell.
Et voilà. Mais le libéralisme, comme dit Zinoviev, le libéralisme tourne totalité à un moment et emploie les mêmes méthodes. Hein, je rappelle le numéro de la commande en tour, 114.
Michel Delucien.
Oui.
Quel est le film qui vous a le plus marqué pendant cette période où vous étiez un adolescent?
Alors, il y a plusieurs films. Il y a plusieurs films qui m'ont marqué. Bon, Le Corbeau. Parce que ma passion du cinéma vient d'un cadeau que mon père m'avait fait. Mon père était un personnage sicilien, vous voyez, un peu farfelu dans son genre, et lorsque j'avais 8 ou 9 ans, il m'avait offert un appareil de projection ultra sophistiqué, 9,5 mm, enfin, mais c'était presque un truc de professionnel, vous voyez, qu'on aurait pu mettre dans des patronages, par exemple. Et le premier... Alors, avant, j'avais vu des petits dessins animés de Félix Le Chat. Et un jour, mon père m'amène plusieurs bobines. Qu'est-ce que c'était ? Napoléon d'Abelgance. Alors, j'ai été absolument subjugué et j'invitais mes petits camarades à voir ça. Et
vous aviez le droit de manipuler l'appareil, c'était pas comme le train électrique réservé au papa.
Ah non, c'était pour moi. Il y avait, 8 ans et demi, 9 ans. Et ma passion du cinéma est venue de là. Parce que j'ai été absolument...
Vous l'avez vu combien de fois alors ?
100 fois. Oui, j'ai été ébloui. C'était extraordinaire. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. La puissance des images. Alors, moi, naturellement, je n'ai pas eu la chance de le voir quand il a été projeté à l'Opéra.
Sonorisé en direct.
Avec le son stéréophonique, déjà, et les fauteuils qui basculaient.
Oui.
Ça devait être quelque chose absolument qui correspondait au génie d'Abelgance. Et donc, ensuite, le cinéma m'a toujours passionné, et j'ai même été assistant metteur en scène dans une petite société qui faisait des documentaires sportifs. C'était d'ailleurs assez amusant. Et donc, si vous voulez, il y a plusieurs périodes, si vous voulez, en fonction de l'âge que j'avais. Alors, il y a un film qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait La Nuit Fantastique, de Marcel Lherbier, avec Micheline Prel et Fernand Gravel, qui est un film merveilleux, qui est un des rares films fantastiques français, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Oui, c'est la qualité des fantômes à vendre, des choses.
Bon, alors ensuite, il y a eu La Main du Diable, de Maurice Tourneur, avec Pierre Freinet, qui est superbe. Et
J'ai 60 ans, j'ai vu La Main du Diable, je devais avoir, je sais pas, j'avais pas 10 ans, hein, j'en suis parmi. Hein. Je n'en suis parmi. C'est le film le plus terrifiant que j'ai vu de ma vie. C'est... Vous connaissez l'histoire, non? C'est un peintre ou un musicien. Oui, c'est un peintre qui achète une main momifiée dans un écrin. Et naturellement, en échange de...
Il doit payer un franc par jour au diable.
Par jour au diable, voilà. Et cette main, peint à la perfection, et elle fait tout à la perfection, bien sûr, c'est la main du diable.
Et
elle peint des corsaires. Non, mais lui, c'est pas, on a bien compris que c'était pas la main du diable dans le cas d'Alexandre.
Et alors, le diable est interprété par un acteur merveilleux, Palot.
Oui.
Et alors, il se présente comme un petit notaire de province. Et tous les jours, parce qu'à chaque fois, c'est tous les jours un franc.
Voilà.
Et si jamais le malheureux ne peut pas payer, ce moment-là, la main se coupe et elle est revendue. Alors, il y a un assassin, il y a un menuisier ou un ébéniste, enfin, il y a plusieurs, un cuisinier, Noël Roquevert.
Vous êtes bien sur Radio Courtoisie et même très bien.
Donc, je vous parle de la main du diable. Et alors, évidemment, le film référence, c'est L'Éternel Retour, avec Jean Marais, Madeleine Sologne.
Et avec Pierral.
Avec le nain Pierral, qui est c'est fabuleux.
Ah oui.
Et alors, vous savez qu'à l'époque, Jean Marais, vous voyez, à l'âge qu'il a, il est beau comme un dieu, et il a un pull-over jacquard. Ouais. Et ce pull-over jacquard, toute la France, toutes les jeunes filles de France se sont mises à tricoter des pull-over jacquard. Alors aujourd'hui, Ralph Lauren, il ferait fortune avec ça, parce qu'il n'y avait pas un jeune homme ou une jeune fille, ou même de jeunes garçons, jeunes filles qui avaient un pull-over avec, évidemment, c'est toute la magie de Cocteau. C'est un film merveilleux. Et il y a eu très peu de...
Madeleine Sologne,
et vous savez...
Éblouissante.
Et c'était à l'occasion de ce film qu'elle est devenue blonde. Mm-hmm. Parce qu'avant, elle était brune. Bon, elle était pas mal, mais... Tandis qu'ensuite, tous ses films, elle est restée blonde dans tous ses films.
Et je l'ai rencontrée, il y a une vingtaine d'années. Et ça m'a frappé également avec Arletty. C'était des femmes qui avaient tellement marqué l'imagination de l'enfant que j'étais quand je les ai vues au cinéma, que quand je les ai vues à 80 ans, elles avaient gardé, je les voyais avec leur beauté de jeune fille. Et Madeleine Sologne était une dame très âgée quand je l'ai rencontrée. Et Arletty, pareil. Je ne voyais pas du tout des vieilles dames. Je voyais la magnifique Madeleine Sologne de L'Éternel Retour ou Arletty de...
Les Enfants du Paradis.
Comment?
Dans les enfants du paradis,
oui, où elle est admirable. Et alors, avec Arletty, on avait déjeuné avec elle, avec François Brignot.
Que je connais bien.
Vous connaissez? Et elle avait une grande admiration pour François Brignot, et qui, lui, avait une grande admiration pour elle. Alors, on avait l'impression de deux étudiants, deux collégiens qui se regardaient avec passion et une espèce de timidité. C'était complètement émouvant, et elle a éclaté de rire à un moment. Alors là, c'est un souvenir que j'oublierai jamais, parce que c'était exactement le rire qu'elle a dans Les Enfants du Paradis quand elle répond j'espère qu'on va se revoir. Elle a une réplique comme ça où elle dit une espèce de phrase très très simple, très très banale, genre il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Enfin, c'est pas la phrase exacte, mais et elle rit comme dans la marine. Et ce rire était vraiment quelque chose d'une puissance, érotique incroyable. Enfin, avec les cheveux qui se dressaient sur la tête, et de voir cette femme qui était déjà aveugle et qui avait plus de 80 ans, capable de d'émouvoir, de nous faire battre le cœur rien qu'avec un éclat de rire, ça c'est des souvenirs. On voit bien que ces comédiennes là sont pas des êtres... C'est pas commun.
Bastia, moi, je me souviens, il doit y avoir 20 ans ou 25 ans, je dînais chez Lippe, et en face de la table où je me trouvais, il est arrivé Jacqueline de Lubac avec Louis Jourdan. Alors, je vous assure...
L'éblouissement, là.
Une élégance, une classe, mais absolument extraordinaire. Et Madame de Lubac, à l'époque, n'était plus très jeune. Mais alors, toute la salle... il y avait aussi Madame Renée Saint-Cyr, qui était une grande dame.
Pour les très jeunes gens, je traduis, Jacqueline de Lubac était la deuxième ou troisième épouse de Sacha Guitry, avec qui elle a tourné 4 ou 5 films.
Dont le roman d'un tricheur.
Elle l'a pris à Yvonne Printemps.
Oui, elle était sa seconde femme, je crois. Ou la troisième, parce qu'avant Yvonne Frinton, je crois qu'il avait eu une femme anonyme.
Charlotte Lizet.
Pardon ?
C'était pas Charlotte.
Charlotte Lizet était la première, oui.
La première, tout à fait, tout à fait.
Ah, pour revenir au cinéma de l'occupation, on me demande de, on me dit, j'espère que vous n'oublierez pas de parler du meilleur, Louis Jouvet.
Mais il a jamais tourné sous l'occupation.
Il a jamais tourné pendant l'occupation.
Non, parce qu'on lui avait proposé, les autorités allemandes lui avaient proposé de devenir une sorte de grand maître du théâtre et du cinéma français, parce que à l'époque du Front populaire, il avait fait partie avec Charles Dullin, avec il y avait Charles Dullin, Copeau. Et un autre, il faisait un quadrium virat pour diriger la Comédie française. Alors on avait proposé à Louis Jouvet, de prendre la direction, d'avoir la haute main. Bon, comme il ne voulait absolument pas travailler avec l'occupant, il a trouvé le prétexte d'une tournée en Suisse qui a été son tremplin pour partir dans sa grande tournée aux Amériques. Et là, il y a une chose assez peu connue. Louis Jouvet, il faisait du cinéma, mais pour pouvoir, si vous voulez, financer l'Athénée, son théâtre. Et il était très réticent pour les adaptations des grandes pièces classiques. Et il a cédé à la pression de Madeleine Auzeray, qui voulait absolument qu'il tourne l'École des femmes, avec Max Ophüls, qui était réfugié en Suisse. Alors ils ont tourné deux ou trois scènes que personne n'a jamais vues, parce que comme Madeleine Auzeray était devenue la maîtresse d'Ophüls, Louis Jouvet avait pris un coup de sang, il a tout stoppé, et les seules scènes qui ont été tournées, elles ont été à l'Opéra de Genève. Et je connais d'autant plus l'histoire que j'ai chuté dans l'émission de Jean-Pierre Foucault sur RTL, où j'avais présenté la carrière cinématographique de Louis Jouvet. Et c'était la question piège, parce qu'ils m'ont dit, l'école des femmes, j'ai dit école des femmes, oui, c'est où est-ce que ça a été tourné et quand? J'ai dit ça a été tourné en 41, ça a été tourné en Suisse, mais où? Je dis à Genève. Ils m'ont dit, mais où? On vous parle d'un film, vous pensez à un studio. Et vous savez, une minute, ça va très vite. Mmh. Et en fait, j'ai chuté à ce moment-là. Et malheureusement, quand je préparais l'émission, j'avais été à la FNAC et j'avais cherché un livre d'un garçon remarquable que je connais bien, Olivier Barraud, qui avait écrit avec Raymond Chirin un ouvrage sur Louis Jouvet. Et c'est le seul ouvrage où il parle de ça et où il donne l'indication que ça a été tourné à l'Opéra de Genève. Et il y a eu simplement un article de Pierre Brisson dans le Figaro en 1943. Oui. Et personne n'a jamais rien vu. Alors, comme les producteurs étaient furieux parce qu'ils avaient engagé des frais, Louis Jouvet, pour les dédommager, a fait une tournée en Suisse, au théâtre, avec l'École des femmes, et il a donc désintéressé les commanditaires.
Vous avez parlé plusieurs fois du film Le Corbeau. Il y a une chose qui est amusante, Le Corbeau, c'est un film extraordinairement noir.
Clouseau était un homme,
un réalisateur très très sombre. Or, il y a un film qui est le pendant du Corbeau, et qui est exactement le contraire d'un film noir, et ça va peut-être surprendre ce que je veux dire, mais c'est Le Viager.
Oh, c'est incroyable, c'est fabuleux.
C'est exactement une histoire de lettres anonymes.
C'est fabuleux, Le Viager.
C'est un très très grand film avec Michel Serrault.
Il y a Claude Brasseur, je crois, qui est tout jeune à l'époque.
Tout jeune, oui. Et l'histoire, c'est un malade qui vend, enfin, je sais plus exactement, un bonhomme qui va voir son médecin, et son médecin qui est magnifiquement interprété par Galabru, et qui est le prototype du vieux CON, et qui dit « Faites-moi confiance !» Hitler, deux jours, faites-moi confiance. Quand il examine ce malade, et il dit « Ce type-là, dans un mois, il est mort. Faites-moi confiance, dit-il à son beau-frère, en lui conseillant d'acheter une maison qu'il a dans un petit village de Provence, dont il a oublié le nom. Enfin, bon, ils finiront par le retrouver, ça s'appelle Saint-Tropez, ou un truc comme ça. Et alors, ils achètent en viager. Et alors le viager doit être indexé sur le prix du blé, et Galabru dit mais non, il faut le faire indexer sur l'aluminium, ça ne vaudra rien du tout, faites-moi confiance. Et alors et naturellement ils sont ruinés très vite, parce que Serrault va vivre centenaire et plus, et puis surtout ils essayent de le tuer plusieurs fois, enfin de le faire.
Ah oui, mais ils n'y arrivent pas.
Alors ils le dénoncent comme membre de la cinquième colonne juste avant le 10 mai. La lettre arrive à la commandanture après l'occupation. Et donc, il passe une occupation parfaitement tranquille sous la protection des autorités allemandes. Et alors, à la fin excédée, il le dénonce comme collabo. Et le facteur, pas comme collabo, comme résistant. Et le facteur, au lieu de déposer la lettre, monte dans un camion qui l'emmène dans le maquis. Et quand il revient, il distribue, la libération étant faite, il distribue le courrier et il met dans la boîte aux lettres de la mairie où réside le comité de libération la lettre qui dénonçait qui dénonçait Stéron comme un résistant redoutable, et naturellement il reçoit la Légion d'honneur. Bon, c'est un peu le pendant de...
Alors vous me parliez donc, parmi les autres films qui m'ont impressionné, et un autre chef-d'œuvre, c'est Les Inconnus dans la maison d'Henri de Coin, où Clouseau a fait l'adaptation et les dialogues, où le récitant est Pierre Fresnay, s'est adapté d'un roman de Siménon, et alors ce pauvre de Coin, on lui a fait les pires ennuis, le film a été interdit, sous quel prétexte? C'est que l'assassin, c'est Mouloudji. Oui. Et alors, le malheureux, il porte un nom qui n'est pas français, mais dans le film, on fait aucune allusion. C'est simplement dans le roman où Simenon a une petite annotation en disant qu'il était d'origine caucasienne. Mmh. Alors on a fait les pires ennuis à Henri de Coin avec le numéro de Rému, qui est quelque chose d'absolument fabuleux et génial.
Oui. Et d'ailleurs, il y a une chose intéressante avec Les Inconnus dans la maison, qui permet de voir à quel point un film peut être tributaire du talent du metteur en scène et des acteurs, ce qui est évidemment un truisme de dire ça, mais il faut voir les deux versions, la version Rému et la version
Belmondo. C'est jour et la nuit.
C'est nul, le film est nul.
Ouais. Et vous avez, alors dans ce film, là, dans la première version dont nous parlons, il y a un garçon qui s'est illustré ensuite avec Jean-Marie Rivière, qui était Marc Delnice,
qui fait partie
des jeunes. Là.
Était un homme de chez nous.
Mais c'est un film absolument extraordinaire. Les Inconnus dans la maison. Et attendez, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, Clouseau, dans son adaptation et ses dialogues, voulait noircir encore. Mais alors, la péroraison de Rému aux Assises, lorsqu'il dit, dans cette agglomération de 10 000 habitants, il y a 347 bistrots, je les connais tous. Il y a quelques maisons de passe, c'est vous qui les connaissez. Et dit, il n'y a pas de piscine et il n'y a pas de stade.
C'était prémonitoire, hein. C'était déjà le discours d'aujourd'hui sur les banlieues. On explique pourquoi les gens font des bêtises, parce qu'il n'y a pas de piscine,
les
toilettes sont cassées.
Dans les numéros d'acteurs, il y a Marguerite Moreno dans Douce, d'Autant Lara.
Ah ben voilà, le film qui a fait connaître Autant Lara, et qui a aussi...
Il avait fait le mariage
de Chiffon. Mais disons que c'est Douce, il avait fait aussi Lettre d'amour. Mais Douce, ça a été, si vous voulez, un peu le déclic, c'est ça qui a attiré l'attention de la Continentale sur lui, et ce pauvre Autant Lara, qui était un communiste pur et dur, et on l'a interdit à la Libération. Enfin, on lui a fait tout un tas de misères, comme on a fait à Marcel Carnet, vous comprenez, qui était communiste lui aussi. Mmh. C'est ça qui est invraisemblable. Marcel Carnet, on l'avait interdit de film. Alors, il y a des choses extraordinaires. Henri Janson, qui était un véritable anarchiste, était pacifiste. Donc, le voilà embastillé par la République française, on le fout en prison, au bout de 5 mois, on le fait sortir en lui disant « tu t'engages ». Bon, il s'engage, il est fait prisonnier, et les autorités allemandes le libèrent, et lui donnent un poste à la rédaction d'un journal qui s'appelait Aujourd'hui. Mais vous pensez bien que l'incorrigible Henri Janson continue à pétroler, et pas, on le refout au trou. Alors, ce qui était bien, sauf qu'on lui avait quand même donné l'occasion de participer au scénario, je crois que c'est de La Nuit Fantastique, où du fond de sa prison, il a collaboré au scénario. Et il y a un autre cas, c'est Charles Spack, le grand dialoguiste scénariste, qui était à Fresnes, où il a écrit l'adaptation des Caves du Majestic, avec Albert Préjean. C'est extraordinaire, du fond, parce qu'on l'avait confondu avec son frère, l'homme d'État belge.
Alors, oui, c'est vrai. Vous parliez de Palot dans le rôle du diable. Il y a eu un autre diable.
Jules Berry, dans Les Visiteurs du Soir. Vous savez qu'il y a une petite anecdote. Moi, je m'amuse quand, avec des amis cinéphiles, je leur pose des questions. Je dis, quel était le personnage célèbre, qui allait devenir très célèbre, qui est l'assistant de Marcel Carnet dans Les Visiteurs du Soir? Eh bien, c'est le seul Italien, comme disait Rossellini, qui peut s'appeler sans rire Michelangelo, c'est Antonioni.
Antonioni, ah,
qui est, parce que c'est une coproduction franco-italienne, et Antonioni a été l'assistant de Carnet dans ce film absolument merveilleux.
Un auditeur nous rappelle dans La Nuit Fantastique, il dit, n'oublions pas Saturnin Fabre. Oh, bah, tiens, ta bougie.
Ah non, ça c'est pas dans La Nuit Fantastique.
C'est pas dans La Nuit Fantastique.
Ça c'est dans Marie Martine, avec René Saint-Cyr et Bernard Blier.
Mais c'était un, voilà, les grands, grands seconds rôles. Bon, de cette époque.
Alors, je vous ai dit que j'avais eu l'occasion d'être assistant dans une petite compagnie qui était spécialisée dans les films sportifs. Et un jour, ils avaient fait un petit film à petit budget. C'est-à-dire que le studio était loué à l'heure. Mais vous savez que l'heure, dès qu'elle est commencée, elle est comptée. Mmh. Et il y avait Saturnin Fabre. Et tout d'un coup, panique sur le plateau, Monsieur Fabre n'est pas là. Alors moi, c'est mon rôle d'assistant, je vais frapper à la porte, Monsieur Fabre, je rentre, et je dis, Monsieur Fabre, le metteur en scène, le directeur de production vous attend, il dit, ah, mais mon pauvre garçon, il dit, j'ai une sciatique. Monsieur Fabre, une sciatique, ben non. Alors moi, je me précipite, je suis au metteur en scène, Monsieur Fabre a une sciatique. Oh là là, le directeur de production arrive avec le metteur en scène, mais Monsieur Fabre, est-ce que vous avez consulté un médecin? Il faut faire quelque chose. Ah oui, oui, mon médecin, il m'a prescrit. Alors, mais quoi, vous me mettez une feuille d'oseille, là. Saturnin Fabre était comptable de ses deniers.
Voilà, alors, bon, on a égrené quelques souvenirs, vous en avez bien plus, mais je veux rappeler quand même qu'il y a, parce que vous n'avez pas fait de livre.
Oui, justement, je me disais, c'est formidable cette verve de la part d'un monsieur qui n'a rien à vendre.
Non, il n'a rien à vendre, il est venu pour parler de quelque chose qu'il aime et qu'il connaît très bien, mais on peut en profiter pour citer le livre de Philippe Dugue, Les écrans de la guerre.
Un collaborateur de Radio Courtoisie, très brillant.
Qui est paru aux éditions Godefroy de Bouillon et qui est effectivement un excellent bouquin sur...
Ah ben alors je vais le lire, parce que je ne le connais pas.
Absolument, absolument. Ben je vous le passerai. Parce
c'est
que
gentil, je vous remercie. Comme
les éditions de Godefroy de Bouillon ne sont pas avares de leurs exemplaires de presse, j'ai eu droit à un exemplaire de l'écran de la guerre. Ah oui, c'est comme
on approche de la fin de l'émission et donc des messages. Alors Serge, moi j'ai quelque chose à vendre et j'ai la chance qu'un auditeur téléphone pour demander « Peut-on acquérir Batafam en écrivant en place Transliste ?» Il faut absolument que je réponde oui. Vous envoyez un chèque de 10 euros à l'ordre de Patrick Goffman, 4 chez SDB, 4 place Francis, 75-010 Paris, et par retour, je vous envoie ce chef-d'œuvre.
Alors, je tiens à dire que c'est vraiment un message, c'est pas lui-même qui l'a rédigé.
Oui, oui, je vous jure, c'est moi qui l'ai
d'autres messages.
Alors, vous voulez absolument annoncer le colloque, le savoir-vivre. Si c'était vrai, ça se saurait. Conférences, débats et projections de films documentaires, ça se passe le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, on a encore le temps d'en reparler, et ce sera... Ça se déroulera salle Adiard, Square Rap dans le 7e, mais bon, on en reparlera sûrement.
Mais il faut, moi, cette phrase de si c'était vrai, ça se saurait, c'est une phrase que j'adore parce qu'elle résume la sottise des rationalistes bornés. Vous savez, quand vous leur parlez, par exemple, des produits Beljanski, vous dites, bah, si c'était vrai, ça se saurait, mais ça se sait, patate, il suffit de se renseigner.
Et, voilà. Et j'ai une autre... Alors, donc, vendredi prochain, 7 juillet, de 15h à 18h30, Philippe Prévost dédicacera un centenaire trompeur, la laïcité en question. Et le samedi prochain, c'est-à-dire le 8 juillet, de 15h toujours à 18h30, Laurent Glosy dédicacera le mystère de la race des géants à la lumière du créationnisme. Et encore, Louis-Ferdinand Mirosec dédicacera Voyage au bout de la ville à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e.
Merci Victoria, merci Michel Lucien, merci Alexandre Barbera Ivanov, merci Goffman, merci Beketch, merci à vous, cher
merci à vous
de nous avoir prêté votre attention. Vous pouvez la récupérer. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6,
à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 juillet 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 6 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Benoît.